Et la première partie de la session sera une réunion avec Fadi Chiadé. Je pense que ce n'est pas la peine de le présenter outre cela. Il a besoin d'une sortie, dit Fadi. Alan au micro et il est venu avec Rinalia, que vous connaissez déjà aussi. Fadi prend la parole. Oui, c'est ça, je suis avec Rinalia et il parle en arabe. Et oui, on a des interprètes d'arabe. Ali est content parce que pour la première fois, il va tout comprendre sans avoir à faire recours aux interprètes. Je suis très contente de vous voir tous. Notre présence au Maroc a une saveur spéciale sans doute. On est réunis dans un pays qui a un long héritage et une histoire riche. Il s'agit d'un pays qui fait partie de l'Afrique et du monde arabe d'une manière qui est très agréable. Et je respecte beaucoup les Marocains parce que lorsque je me réunis avec eux, je sens toujours qu'ils ont une dignité, qu'ils ont un esprit qui est vraiment soulageant. Et franchement, j'adore venir au Maroc et voir les gens et rencontrer de nouvelles personnes et apprendre de ces gens. Et je suis reconnaissante de tout le monde. J'apprécie énormément le travail de Aziz Ilali, qui m'a soutenue pendant 2 années. 2 années très difficiles d'ailleurs. Alors Aziz, je vous remercie fortement. Et j'ai déjà parlé à Aziz, mais je vous répète qu'au cours de ces 4 années que j'ai été PDG de l'ICANN, je n'ai jamais visité quelqu'un de cette communauté, à l'exception de sa maison. C'est la seule personne à m'avoir invité chez lui. J'ai été chez lui parce que il m'a invité pour me présenter à sa femme, à ses enfants et à sa famille qui est merveilleuse. Alors, Aziz, je vous remercie beaucoup. Je n'oublierai jamais ce geste de votre part.
Qu'un arabe qui parle le français beaucoup mieux que moi, comme Aziz et Tijani et les autres. Mais simplement pour vous dire que le moment est très historique. On passe par un moment très historique. Par exemple, je viens de savoir qu'on a 2200 personnes enregistrées il y a 2 minutes.
2200 personnes.
En Afrique, on a 2200 personnes. Je crois qu'il n'y aura pas de la place dans le hall lundi. J'ai été aussi maintenant avec Tarek qui m'a dit qu'on aura 100 délégations dans le high-level meeting du ministre El Alami. 100 délégations, 22 ministres. Pour vous rappeler, à Toronto, on avait combien de ministres dans le high-level meeting ? Zéro. Il y avait zéro. On a 22 ministres qui arrivent lundi. C'est incroyable, vraiment, c'est un moment très, très apprécié par la communauté. Et pourquoi, vous dites, pourquoi maintenant ? Hein ? Il y a beaucoup qui se passe, mais à mon avis, la raison qu'on a vraiment cette présence incroyable par la communauté, c'est parce qu'ICANN est une organisation maintenant bien reconnue dans le monde, comme une organisation qui fait son travail avec la confiance du monde. Et ça, c'est vraiment un moment personnellement pour moi, mais j'imagine pour chacun de vous, un moment de triomphe. Parce qu'il y a 4 ans, j'étais au Wicket à Dubaï, où les gens encore se demandaient si nous sommes l'organisation légitime pour s'occuper de ce qu'on fait. Et nous sommes dans un moment vraiment, pour moi, de remerciement, de gratitude au monde. Et à vous, à chacun de vous. Maintenant, le grand problème que j'ai, c'est qu'on me demande lundi matin de parler ou en arabe ou en français pour l'ouverture de l'ICANN. Ou les deux. Je ne sais pas, je suis en train d'y penser, il y aura beaucoup de délégués du monde. Moi, je n'ai jamais parlé en arabe dans une rencontre ICANN. C'est la première fois que je le fais aujourd'hui. Mais c'est ma langue maternelle. Je l'aime beaucoup et je la respecte. Et si ce sera possible, je vais demander à mon conseil d'administration si ça leur va. J'aimerais au moins dire quelques mots dans la langue du pays et ma langue maternelle.
I agree.
You agree?
Yes.
Okay. Écoutez, I will finish in English with a...
Je finirai en anglais pour remercier spécialement la LAC. Je commencerai par Olivier et j'arriverai jusqu'à Alan, parce que c'est eux qui ont été les dirigeants de la LAC, qui m'ont accompagné au long du processus. Et du côté du conseil d'administration, je commence par Sébastien et je finirai avec Rinalia, parce que ces quatre personnes m'ont ouvert les yeux à une communauté que je ne connaissais pas, je ne comprenais pas. Je ne la comprenais pas complètement, je ne savais pas qui vous étiez, comment vous faisiez dans ce puzzle qui s'appelle l'ICANN, comment vous vous intégriez à ce puzzle. Et je les remercie personnellement parce qu'ils m'ont eu beaucoup de patience. Des fois, ils ont été durs avec moi. Et c'est bien, hein, c'est important d'avoir des gens qui nous critiquent, parce que si on ne se respecte pas mutuellement suffisamment pour se corriger, qu'est-ce qu'on fera? Je vois Cheryl au bout de la table. Elle a été la première membre de la communauté à m'avoir regardée, à m'avoir cherchée pour venir me donner des instructions. Et je ne savais pas quoi faire de ces instructions. Je ne sais pas si elle se souvient, mais j'ai raconté à ma femme de cela. Je lui ai dit, il y a une bonne femme qui est venue me voir pour me mettre au bon endroit. Et ma femme a dit, vous ne pouvez pas parler de l'Asie. Il y a plus que l'Asie, ce n'est pas seulement l'Asie. Ne le refaites pas, me disait Cheryl à l'époque. Et j'adore cela de la communauté. J'adore ce sens de... franche, de, vous êtes franche, mais vous êtes en même temps de bons collègues et je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir toléré. Au long de ma recherche pour arriver au bon endroit, je fais des efforts. Je ne sais pas comment m'arrêter, c'est dans ma nature même, c'est mon essence. Je parlais tout à l'heure au personnel de l'ICANN, je leur racontais que dans le vol, j'ai fini de lire un livre qui parle de la respiration. Lorsque la respiration se transforme en air, ça a été écrit par un neuroscientifique, un chirurgien, un neurologue, qui a appris 6 mois avant de devenir professeur à l'université de Stanford, un professeur en neurologie. Il a appris qu'il était malade, un malade terminal, donc il a pu opérer sur les cerveaux. Il a écrit ce livre et puis il est décédé. Et c'est un livre vraiment remarquable. Et dans son livre, il dit quelque chose que je partagerai avec vous. Il dit, les humains, on est nés pour faire des efforts. Et il fait une analogie. Il dit, si on ne s'efforçait plus, c'est comme si un peintre peignait un tigre sans des rayures. Ça aurait l'air de quoi, ce tigre ? C'est ça qui nous fait des humains, c'est le fait de s'efforcer. Et vous m'avez appris à m'efforcer, à me mettre debout lorsque je me trompais, parce que je faisais trop d'efforts. Et je vous dirais, j'ai beaucoup appris à l'ICANN. J'en ai parlé à mon personnel, je leur ai dit, j'ai perdu 10 kilos, j'ai perdu des cheveux. Mais j'ai beaucoup appris, j'ai gagné beaucoup de vous tous. Donc, merci du fond de mon cœur à vous tous qui êtes ici autour de la table, qui m'avez accompagné le long de ces 4 années. Je vous vois tous et c'est Léon qui m'a accompagné à travers des temps durs avec le CCWG. Il a toujours été un homme correct. Des fois, il était vraiment très, très fâché avec moi. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il devenait un peu cynique. Et c'était tout, hein. Il me disait, attention, je vous mets en garde, je vais être cynique parce que je suis très fâché. Vous voyez, ce sont de bonnes personnes. Il a consacré énormément de temps avec sa famille pour desservir notre communauté. Et il fera des efforts cette semaine aussi. Et nous allons célébrer ses travaux. Nous allons le féliciter. On fait de notre mieux, Léon, n'est-ce pas? On fait ce qu'on peut. Et le reste, on le laisse pour la communauté, mais on fait tous de notre mieux. Et c'est ce que vous avez fait. Je veux que tout le monde le fasse. Cheryl, Aziz, Julie, je vous ai vu ces années. Tijani, vous tous, c'est ce que vous faites. Vous êtes des personnes magnifiques. Et donc aujourd'hui, lorsque je parlais au personnel, je leur disais que je pars, mais je vais devenir membre à l'AC. Heidi m'aurait payé très bien pour le faire. Mais je leur ai dit, je reviendrai. Je ne sais pas comment, mais un jour, je vais revenir. Et si je reviens, la seule manière dont je pourrai revenir est en tant qu'utilisateur. Oui, voilà. Il parle hors du micro, on ne comprend pas ce que Holly dit. Un membre individuel, voilà, c'est Fadi qui reprend le micro. Oui, Olivier prend la parole. Votre prédécesseur était membre à de large. Hein? Ah oui, voilà, dit Fadi. Alors, merci tout le monde. Ne passez pas la semaine. Je sais que vous préparez des discours à dire au sujet de ma personne. Ce n'est pas la peine. Je suis déjà très, très riche grâce à vos hommages, grâce aux travaux que vous avez faits. Donc faites votre travail. Nous avons beaucoup de travail à faire cette semaine. Il faut que l'on conclue le travail que Léon et que tant d'autres personnes au sein du CCWG ont fait. Je suis confiée, je sais qu'on y arrivera, je sais qu'on pourra finir ces travaux. Nous allons conclure ces travaux jeudi 10 mars, deux jours avant l'anniversaire des deux années de l'annonce de Larry Strickling. Lorsqu'on s'est assis à 14h30, heure pacifique, le 12 mars 2014, pour annoncer que le gouvernement des États-Unis allait céder sa supervision des fonctions IANA à l'ICANN. On y est presque à la fin. Donc, je vais vous raconter, parce que le Conseil a discuté de cela pendant deux heures, mais le transfert n'est pas complet. Ce qu'on a conclu est notre travail en tant que communauté multipartite. Donc, c'est ça qu'on célèbre. C'est ça qu'on fête. On ne va pas fêter la fin de la transition parce que ce n'est pas le cas. La transition sera complétée le 30 septembre à minuit. D'accord ? Donc il nous reste du travail à faire. Il faut respecter ces travaux. Il ne faut pas se vanter. On ne peut pas parler d'une manière qui montre à Larry ou au gouvernement des États-Unis qu'on se vante. Il faut qu'on soit humble, que l'on sache qu'il nous reste du travail à faire. Mais il faut que l'on dise au monde que nous, la communauté multipartite, nous avons fini notre travail. Je peux mettre ma tête sur l'oreiller pour dire que nous avons conclu nos travaux. Alors, je vous présente mes respects à l'âne et je vais vous demander de finir avec cette réunion, de reprendre pour le reste de la réunion. Je vous remercie de m'avoir invité. Puisque nous sommes en Afrique, je sais qu'il y a beaucoup d'ONG africaines qui sont là. Et donc, je voudrais savoir qui ici est membre d'une ONG africaine. Je vous demande de lever la main. Oui, pourriez-vous nous raconter qui vous êtes et quelle est l'ONG que vous représentez en français, en arabe ?
De l'honneur que vous nous faites en tant qu'Africain, en tant qu'Africaine. Je m'appelle Fatma Amran, je suis de Mauritanie. Je suis dans une association, la première de mon pays, qui œuvre dans le domaine des nouvelles technologies. Ça s'appelle Éthique et Citoyenneté. Et nous avons développé un grand volet genre qui s'appelle Morifam, qui est un site web, un forum virtuel pour discuter de beaucoup de choses entre les femmes et puis une plateforme de formation pour amener vraiment toutes les femmes leaders, toutes les femmes des ONG à utiliser l'Internet, les outils Internet pour plus de visibilité et plus d'accès au monde extérieur. On le fait en français, mais on a été primé comme meilleure pratique de genre éthique par le Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche Kautar, qui se trouve à Tunis. Okay. Parce que c'est presque une première, quoi. On utilise la langue française, faute de moyens, parce que l'arabe n'est pas très développé en termes de... Yeah. Non. Pas en Mauritanie.
En termes de l'Internet.
D'Internet, voilà. Mais on espère faire la version en arabe très bientôt.
Je vais vous laisser ma nouvelle adresse électronique parce que je veux vous mettre en contact avec ma maman,
wow.
qui est professeure de français, mais qui a presque 90 ans, et qui est en train d'apprendre comment utiliser le iPad. Donc je vais la mettre en contact avec
vous. Elle est en avance sur nous.
je vais vraiment prendre votre aide.
Merci
Fatima.
Beaucoup. Merci. Je vous en prie. Merci.
And we'll turn. And we'll...
Et nous allons maintenant passer à Tijani Dialane.
Pardon. Merci pour tout ce que vous avez fait. Vous avez dit que vous allez bien et que nous n'avons pas à nous en faire. C'est vrai que vous allez bien parce que vous êtes digne. Et cette dignité qui vous a toujours accompagné pendant tous vos travaux que vous avez faits ici, c'est ça qui vous fait bien et qui vous laisse bien tout en partant d'ICANN. Toute la communauté africaine, et je peux parler au nom de la communauté africaine en ce sens-là, ne peut pas vous oublier. Pour plusieurs raisons. La stratégie africaine est l'une des raisons, mais ce n'est pas la seule. Il y avait du cœur dans le travail qu'on faisait avec vous. Et c'est ça la différence. Donc, je vous dis merci, merci encore. Je suis sûr que vous allez très bien. Je suis sûr qu'on va se rencontrer un jour et vous allez nous dire « je vais très bien ». Merci beaucoup. Merci.
Un seul moment d'émotion pour ne pas faire beaucoup de discours. Et donc, au départ, on voulait que ce soit une surprise. Maintenant, ça ne l'est plus. Et je suis sûr que mes collègues d'Alac, tout le monde le sait, il y aura le lundi soir à partir de 19h à la Grande Tente une soirée. En fait, c'est le showcase africain que nous faisons d'habitude dans chaque fois que la réunion de l'ICANN a lieu sur une terre africaine. Qu'on va la dédier à un hommage à Fadi. Et donc, tous les participants à ICANN, nous avons prévu 1200 personnes. Et donc, tout le monde va être là. Et ça va être. On va faire des speeches, mais très rapides. Par exemple, Elinalia et Alan, ils ont 2 minutes chacun, juste pour ne pas. Parce que ça serait à la fin de la journée. D'habitude, on vous le donne plus. Alors, cette fois, ça sera juste 2 minutes. Et c'est pour laisser le temps un peu à l'animation, parce qu'on a prévu 2 groupes folkloriques et qu'il y ait plus de la joie que de l'émotion, je préfère. Voilà.
Thank you very much.
Merci, dit Alan. Je pense que personne ne va parler pendant plus de 2 minutes. Hein. Fadi, je vous remercie. Nous allons vous revoir cette semaine. Merci. Bien, toujours Alan au micro. On se prépare donc pour continuer nos discussions au sujet des recommandations du CCWG. Bien, merci. Nous allons reprendre avec la recommandation numéro 3. Avant la pause déjeuner, si je ne me trompe, on avait une liste d'intervenants. Je me trompe peut-être, mais corrigez-moi. J'avais Jimmy, Tijani et Sébastien. Est-ce correct? Est-ce que vous vous rappelez ce que vous vouliez dire? Ou alors, on peut commencer une nouvelle liste si vous voulez. Bien, nous allons commencer une nouvelle liste au sujet de la recommandation numéro 3. Tijani prend la parole. Moi, je me suis déjà exprimée. Ah, on n'avait peut-être pas de liste alors, dit Alan. Oui, apparemment, il y a un consensus autour de la salle. Alors, y a-t-il quelqu'un qui voudrait s'exprimer au sujet de la recommandation numéro 3 qui porte sur la division des statuts constitutifs en statuts standards, statuts fondamentaux? Les statuts standards pourront être modifiés par le conseil d'administration et la communauté aura le pouvoir de veto, alors que les statuts fondamentaux ne peuvent être modifiés qu'avec le soutien sensible, substantiel de la communauté habilitée. Non? Alors à la une, non? Allez? Non? On a Shane qui lève la bouteille, ce qui veut dire qu'il veut prendre la parole. Shane, allez-y. Sean prend la parole. Merci, Alan. Je voulais simplement demander, est-ce que la mise en œuvre des statuts constitutifs, est-ce que cette mise en œuvre a un rapport avec l'autre recommandation, avec la piste de travail 2? Si l'on fait la mise en place de la piste de travail 1, est-ce qu'il faut que ce soit fait avant la mise en œuvre des statuts? Oui, c'est ça, dit Alan. Les statuts doivent être mis en œuvre avant, pendant, au cours de la transition. Donc on n'a pas le choix, mais les statuts constitutifs vont devoir être mis en place et les statuts associés avec la piste de travail 2 vont devoir être faits suivant les nouvelles règles de modification des statuts constitutifs. Donc cela veut dire que si on avait des modifications exigées aux statuts fondamentaux en vertu de la piste de travail 2, ce ne pourrait être fait qu'avec le soutien de la communauté. Y a-t-il d'autres questions au sujet de la recommandation 3, hein? Non, pas de main levée. On n'a personne sur Adobe Connect? Non. Alors, on avance. On passe à la recommandation 4. En fait, on va revenir sur l'autre diapo, sur la recommandation numéro 3. C'était la liste des inquiétudes de l'ALAC. Et la vraie inquiétude de l'ALAC sur cette recommandation numéro 3 est que pour protéger les statuts fondamentaux, la communauté habilitée doit agir. D'autre part, on a ici des interdépendances, des implications qui disent que si l'on veut modifier des statuts constitutifs fondamentaux parce qu'il y a eu un événement essentiel, important au monde, la communauté doit agir. Si elle n'agit pas, on n'a pas d'autres clauses. Et donc, vous pouvez dire, que serait-il si la communauté disait « ça ne m'intéresse pas, ça, ce n'est pas important ». Alors, les organisations peuvent échouer pour différentes raisons. Voici une des raisons pour lesquelles on peut échouer. Mais il faut qu'il y ait beaucoup de conditions données pour que les organisations fonctionnent. Donc ici, on a une de celles-là. Recommandation 4 maintenant. Bien, recommandation numéro 4. Et une grande recommandation qui énumère les pouvoirs communautaires et les décrit. Cette recommandation ne décrit pas l'exercice de ces pouvoirs, ce qui est fait dans la recommandation numéro 2, mais on décrit ici quels sont les pouvoirs communautaires. La communauté peut rejeter les budgets de l'ICANN, les budgets de YANA, et la communauté peut rejeter les plans stratégiques et opérationnels. Nous pouvons rejeter les modifications au statut constitutif de l'ICANN, ce qui implique bien sûr que lorsque les statuts de l'ICANN sont amendés, les statuts standards, il faut qu'il y ait des délais en place avant leur entrée en vigueur. On ne peut pas faire des modifications au statut constitutif qui soient en vigueur immédiatement s'ils ne sont pas réversibles, parce que cela ne donnerait pas l'occasion à la communauté de s'y opposer. Nous pourrions également destituer des membres individuels du conseil d'administration, chaque SO ou chaque AC ayant désigné un ou plus de membres du conseil d'administrateur peuvent les destituer. Il faut qu'il y ait un fondement pour cela qui pourrait être n'importe quelle raison que l'organisation choisit, mais il faut qu'il y ait un fondement et une occasion pour que l'administrateur, je ne dirais pas se défendre, mais plutôt qu'il l'explique ou justifie quoi que ce soit. Mais la communauté, de toute façon, a la capacité unilatérale de destituer l'administrateur si elle le voulait. Les administrateurs du NOMCOM peuvent également être destitués. Ils sont destitués par l'action de la communauté habilitée dans l'ensemble. On a également l'occasion de destituer de l'ensemble du conseil d'administration, ce qui demande une grande partie de la communauté pour le faire. Mais si jamais on destituait l'ensemble du conseil, ça voudrait dire que l'organisation n'est pas en bonne forme et le message qu'on enverrait au reste du monde serait potentiellement onéreux. Mais de toute façon, on a toujours le pouvoir, ou la menace de ce pouvoir est encore plus importante que le pouvoir lui-même. Et c'est une des mesures que nous pouvons prendre en tant que communauté. Il y a un processus, bien sûr, pour destituer le conseil. Si le conseil était destitué, on a un conseil intérimaire qui entrera en vigueur pendant une période déterminée. J'avoue qu'au cours des discussions, on a eu du mal à trouver des mécanismes pour remplacer immédiatement le conseil d'administration, parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir une organisation qui n'est pas de conseil d'administration. Et le concept de destituer le conseil, si ce n'est pas effectif immédiatement, si on ne fait pas confiance au conseil, on fait comment pour leur faire confiance pendant 3 semaines jusqu'à ce qu'il y ait un conseil intérimaire? On se demandait alors, que fait la communauté au sein d'autres communautés? Eh bien, on s'est dit, ils n'ont jamais le pouvoir de révoquer l'ensemble du conseil d'administration. Mais s'ils ont le pouvoir, ils ne savent peut-être pas comment remplacer le conseil immédiatement ou au long terme. En fait, c'est une menace illustrative qui ne pourrait pas être utilisée parce que l'organisation n'aurait plus de conseil d'administration, ce qui n'est pas admissible pour nous. Donc, vous voyez, c'est intéressant. On a la possibilité de modifier des statuts fondamentaux et l'acte constitutif également. Si on les modifie, on devrait avoir des mesures prises par le Conseil et la communauté. Si la communauté n'agit pas pendant une période déterminée, la modification ou l'amendement ne sera pas adopté. La communauté peut initier un processus de révision indépendante. Si la communauté croit que le Conseil a manqué au statut constitutif, elle aura le pouvoir d'agir. Et finalement, au sein de l'ICANN, la communauté peut rejeter les décisions de l'ICANN directement liées à l'ICANN, à l'IANA. Donc si l'on sent que le conseil d'administration ne gère pas correctement l'IANA, si on sent que l'IANA n'est pas bien exploité, la communauté peut agir de manière concertée. Donc voilà le résumé des recommandations, un récapitulatif, dont la plupart annulent les mesures prises par le conseil d'administration. Il y a une qui demande une action effective, une action active du conseil d'administration. À ce point-là, je donnerai la parole à Garth qui lève la main. Merci, Monsieur le Président. Garth au micro. Concernant la capacité de destituer un membre individuel, est-ce que cela est limité à notre administrateur de la LAC? Oui, c'est ça, dit Alan. Alors, dit Garth, le reste de la communauté, est-ce qu'elle pourrait également destituer notre administrateur? Alan prend la parole. Non, les administrateurs désignés par une SO ou un AC ne peuvent être destitués que par cette SO ou cette assez. Chacun aura la possibilité pour son propre administrateur. Jimmy?
Oui, désolé, j'ai une question importante à poser. Au sujet de ce débat que nous avons déjà commencé, pour aller un petit peu plus vite dans les recommandations, parce que je crois qu'on a fait beaucoup de travail déjà, effectué beaucoup de travail, jusqu'à la semaine dernière, en fait. Il me semble que ce serait intéressant pour nous tous d'avoir un vote test, en quelque sorte, pour voir ce que l'on pense dans la salle, autour de cette table. Si on est tous d'accord sur les points, peut-être qu'on pourrait se concentrer sur les points où on n'est pas d'accord, où il n'y a pas de consensus, où on n'a pas tous la même opinion. Et donc, on pourrait faire ces votes, on pourrait passer par un système de vote, c'est ce que je proposerais. Et j'aimerais maintenant revenir à cette recommandation numéro 4. J'ai une question là-dessus, tout particulièrement pour révoquer un administrateur, retirer un administrateur, donc, pour le destituer. Est-ce que on va mettre en place des lignes de conduite pour dire voilà les raisons pour lesquelles nous destituons cette personne, ou est-ce que c'est quelque chose où on pense que l'on devrait destituer quelqu'un, on doit avoir des faits réels, on doit se reposer sur de concrets, comment ça se passe à ce niveau-là? Oui, je reviens en arrière. Avec les lois de la Californie et les lois en général, dans la plupart des pays, vous savez, les membres ont souvent le droit de destituer des administrateurs. Dans pratiquement tous les cas, on peut les destituer sans cause, sans indiquer des faits. Simplement dire, nous vous limogeons. Vous êtes destitué, vous partez. Mais on peut également donner la possibilité aux gens de se défendre. Donc, lorsqu'on en demande une destitution, il faut donner des explications. Ça ne doit pas être quelque chose qui peut être vérifié ou prouvé. L'exemple qui nous a été donné, par exemple, on dirait vous portez des pantalons violets, et ça ne plaît pas, on vous limoge. Mais ça ne doit pas être quelque chose d'obligatoirement onéreux ou essentiel pour la communauté. Si l'on retire, par exemple, à l'administrateur de At Large, nous sélectionnons un directeur sur certains faits, certaines compétences. Mais si nous pensons, par exemple, avoir fait le mauvais choix, si on se rend compte plus tard qu'on a fait le mauvais choix, on arrive à avoir le pouvoir de limoger cette personne. Donc, on a beaucoup parlé de cela, c'est très complexe. On a trouvé un compromis, on a fait un compromis. Il y a des gens qui voulaient que ce soit comme la loi de la plupart des juridictions, disant, nous vous destituons, nous vous révoquons, vous partez. Et nous, on a trouvé une voie médiane un petit peu. Donc, une fois que vous identifiez des raisons, il y a une définition légale des causes, des raisons. À ce moment-là, vous pouvez avoir des poursuites judiciaires. L'administrateur peut se retourner contre vous dans une cour de justice. Et il va demander restitution. Et en fait, on a eu des débats très difficiles avec le conseil d'administration de l'ICANN. Et nous avons des clauses qui nous disent que si une personne qui a bien été nommée et qui fait une déclaration, on ne veut pas que... On ne peut pas empêcher les poursuites judiciaires, mais il faut qu'ils puissent travailler en bonne foi, en toute bonne foi. Donc il faut les protéger un petit peu. On a trouvé un moyen de les protéger, ces personnes, ces administrateurs qui viennent des AC ou des SO. Donc je crois que nous avons trouvé un compromis raisonnable. Et pour répondre à votre première question, on ne rentre pas dans les détails. Bon, j'aurais pu présenter 11 transparents à ce sujet. On essaie là maintenant de simplement vous rappeler un petit peu certains points, de vous rafraîchir la mémoire et vous donner un résumé, une synthèse de la situation pour ces recommandations. Très bien. Et qu'en est-il des votes? Oui. Est-ce que vous voudriez qu'on vote sur tout ou recommandation par recommandation? Sur l'ensemble? Pour voir où sont les problèmes. Donc vous nous demandez d'arrêter le processus pour un instant et de faire un vote. Moi, je suis prêt à faire cela. Est-ce qu'il y a des objections à cela? Donc, s'il y a deux objections, donc deux, trois objections. Donc, il me semble désolé, ça ne passe pas. Donc, je ne sais pas C'est Tijani ou Alberto, le premier? Alberto, allez-y. Très bien, donc je m'exprime en espagnol. Donc cette question de cause, de raison, mais la procédure doit être définie. Si l'on veut retirer un membre du conseil d'administration, destituer cette personne, il y a un vote. Donc cette proposition également devrait être effectuée avec un vote. Si vous soumettez une demande d'un vote à 50% ou 75%, donc quel seuil va être le bon pour l'ALAC? C'est une majorité simple des personnes votantes. Donc c'est l'ALAC plus les 5 RALOS, 5 personnes à la tête des RALOS. Donc ça c'est fait par l'ALAC, cette destitution, et c'est effectué, je crois, à une super majorité aux 2/3, me semble-t-il. Donc je crois que c'est spécifié, c'est tout à fait précisé. On aurait pu aller à un seuil peut-être un petit peu différent, mais on n'a pas pu le faire. Tijani, vous avez la parole. Oui, merci Alan pour vous répondre à cette question de Garth. Pour, par exemple, destituer Renalia. On a la seule entité qui pourrait, par exemple, destituer Renalia par l'intermédiaire de la communauté. Il y a un seul cas où nous pourrions être en désaccord, c'est lorsque la communauté propose de retirer tout le conseil d'administration, de révoquer le conseil d'administration tout entier. Donc là, à ce moment-là, on ne peut rien faire et Renalia partirait avec tout le conseil d'administration. Mais pour des administrateurs individuels, il y a eu de très longs débats, comme l'a dit Alan, sur ce sujet. Et vraiment, il y avait une grande inquiétude, parce que la première proposition, c'était que tout AC ou SO puisse retirer un administrateur sans raison, comme ça. Décider aujourd'hui de retirer la personne, de la destituer, et la personne devait partir sur le champ. Donc, on a eu beaucoup de désaccords à ce sujet, et c'est pour ça qu'on a créé un forum pour la communauté. La communauté peut donc travailler par l'intermédiaire d'un forum. Donc, ce n'est pas directement que l'on destitue un administrateur. Il y a un process avec plusieurs étapes. Une de ces étapes, c'est d'avoir un forum de la communauté. Et l'administrateur peut venir dire pourquoi il ne veut pas être destitué, expliquer pourquoi. Et le forum doit dire également pourquoi la communauté veut destituer cet administrateur. Donc la raison doit être valide pour tout le monde, même si on est tous en désaccord. En fin de compte, si la communauté décide de destituer la personne à ce moment-là, eh bien, ça va être la décision du SO ou AC. Et c'est une question de communauté tout entière. C'est la communauté tout entière qui a le dernier mot. Donc, une clarification. Vous avez raison, Tijani et Alan Greenberg au micro. À ce moment-là, on ne peut pas nous empêcher non plus de nommer notre administrateur. Maintenant, c'est Renalia. Ça peut être un administrateur intérimaire. Et ensuite, nous pouvons nommer un autre administrateur, membre du conseil d'administration. Voilà comment ça fonctionne. Donc, je donne la parole maintenant à Sébastien. Donc, je ne sais pas si j'ai bien tout suivi, mais je croyais que le processus, c'est un nouveau processus de retirer les membres du conseil d'administration. Je croyais qu'on devait plus en parler à Atlante. Je crois que c'est déjà fait. Je ne sais pas pourquoi on n'avait pas le droit de le faire si on le désirait, si c'est déjà dans nos textes statutaires. Donc, deuxième point. Donc, Jimmy, je comprends bien ce que vous voulez dire. Vous voulez prendre la température de la salle, mais vraiment, si on n'a pas ces débats en profondeur avant de finaliser un petit peu tout, ça va être vraiment quelque chose, comment dire cela, qui va être difficile à modifier de toute façon. Si on dit maintenant qu'on est en désaccord, comment nous allons pouvoir modifier tout cela? Donc il me semble que ce débat doit être en profondeur et pas superficiel. Donc c'est difficile pour chacun de prendre parti. Donc il me semble que ce n'est pas le bon moment pour faire ces votes, ce processus de vote. Donc si vous demandez qu'on fasse cela pour chaque recommandation, pour connaître le point de vue des membres de la LAC, ça ne me dérange pas, mais pour l'ensemble, c'est autre chose. Donc maintenant sur la substance. Donc, j'ai fait des commentaires sur le premier document CCWG. Je l'ai refait comme en tant que rapport. Et j'ai décidé de ne rien publier sur le troisième parce que j'ai pensé que c'était le temps d'avoir une position collective. Donc, je crois qu'il est important pour vous de bien comprendre que je suis en désaccord avec révoquer tout le conseil d'administration et la manière de procéder qui ne me convient pas. Nous élisons un membre du conseil d'administration pour 3 ans. C'est pas très long comme mandat. Et l'histoire montre que lorsqu'il y a de nouveaux membres du conseil d'administration, cette personne n'est pas bien située, ils s'en vont par eux-mêmes. C'est souvent comme ça que ça se passe. Il y a des personnes qui pensent que après un an, on croit peut-être qu'on peut tout savoir sur le fonctionnement du conseil d'administration. Ce n'est pas vrai. Donc on a parlé avec Crenalia sur ce qu'elle réussit à bien réaliser, à moins bien réaliser. Ça nous montre bien que c'est impossible de tout apprendre en seulement un an. Donc, ce qu'elle nous a indiqué oralement, c'est que c'est un petit peu opaque. Hein. C'est un petit peu opaque comme processus. Et parfois, les membres du conseil d'administration ne peuvent pas s'exprimer très librement. C'est compliqué. C'est très difficile comme système. Ça, c'est le problème, vous voyez. Le fait que le conseil d'administration puisse limoger un membre du conseil d'administration est aussi un processus que nous avons. C'est un des pires cas, une des pires situations. En tout cas, limoger tout le conseil d'administration en son entièreté, c'est vraiment quelque chose de très, très grave. Mais nous nous donnons un pouvoir juridique, un pouvoir légal. Nous savons comment ça se passe dans d'autres associations, qui a vraiment le pouvoir. Moi, je crois que il faut avoir de bons membres du conseil d'administration, mais il faut leur donner du temps pour bien comprendre comment le conseil d'administration fonctionne. Et moi, je ne pense pas qu'il suffit d'une année pour bien comprendre cela. Un exemple. Si on décidait d'avoir un nouveau conseil d'administration après cette réunion, qu'est-ce qu'il saurait de ce qui s'est passé avec Larry Strickling, des débats avec Larry Strickling? Il faudrait que le personnel, le staff, leur explique tout. Et là, c'est le staff qui aurait tout le pouvoir. Ce n'est pas bon non plus. Donc, c'est pour cela. « que je pense que je ne suis pas d'accord et qu'il me semble qu'on ne peut pas être d'accord avec cela parce que ça donne trop de pouvoir à quelques personnes et tout particulièrement, dans certains cas, trop de pouvoir au personnel. Donc, excusez-moi, j'étais un petit peu long. Donc oui, je vous demander d'être concis. Donc Sébastien, vous avez dit quelque chose que vous devriez clarifier, s'il vous plaît. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas destituer quelqu'un? Je crois que nous n'avons pas le pouvoir de cela dans nos statuts. On n'a pas le pouvoir. Non, mais vous avez dit que c'est déjà fait. Comment est-ce que l'on va retirer un membre du conseil d'administration? Vous nous avez dit que ça serait seulement la LAC. Mais ce que je voulais dire, c'est que je ne crois pas que ça a encore été décidé. Nous devons devoir décider quel va être notre processus pour retirer notre membre du conseil d'administration. Moi, j'ai l'impression, peut-être que je vous ai mal compris, mais ce serait la LAC avec 55%. C'est pour cela que, si c'est déjà dans nos règles internes, donc je vais clarifier cela. Si nous choisissons de mettre en place des règles sur l'exercice de nos décisions pour limoger une personne, on aura ces règles en place. Nous avons des règles pour le moment standards qui s'appliquent. Donc vous, Sébastien au micro, donc vous avez raison, mais ici nous avons... Si nous choisissons des règles, il faut avoir les mêmes règles pour les membres du conseil d'administration. On ne peut pas dire, ah oui, on prend des règles d'une partie de nos anciennes règles. Si on a une règle, ça va être la même qui s'applique pour tout, pour les 20 membres votants. Donc Alan au micro, donc je crois que nous allons pouvoir en parler beaucoup plus si on en a besoin, mais j'aimerais rappeler que pour le moment, c'est les AC et les SO qui ont le droit de prendre ces décisions. Donc je crois que c'est une question juridique qui se pose à ce niveau. Nous avons Sean au micro. Sean, vous voulez prendre la parole? Oui, merci beaucoup. Merci Alan, c'est Sean au micro. Donc, vous avez clarifié un petit peu ce point. Ce que vous nous dites maintenant, c'est que nous n'avons pas de processus actuellement pour retirer un membre du conseil d'administration, pour le destituer le membre du conseil d'administration à LAC. Je crois qu'il faudra en parler plus. Voir si l'on pourrait retravailler à nos statuts pour avoir un processus en place pour la responsabilité des SO et des AC. Donc, vous avez mentionné quelque chose sur la décision des SO et des AC. Je crois que lorsque l'on parle de retirer une seule personne, je crois que c'est la décision... du SO ou du AC qui nomme la personne. Donc sinon, il y a des procédures juridiques. Bon, c'est des points de détail juridiques qui se posent. Oui. Tichani. Donc, je crois qu'il faut... Est-ce que l'on parle des règles actuelles pour retirer notre administrateur ou bien est-ce que l'on parle... du nouveau modèle, des nouveaux statuts. Si c'est les nouveaux, c'est déjà dans nos mécanismes. Et si vous voulez retirer un administrateur, il faut approuver cette décision à hauteur de 75% ou des deux tiers, je ne sais plus, majorité ou deux tiers. Donc ça existe déjà pour chaque SO, pour chaque AC. Oui, merci beaucoup Tijani. Alan au micro, si vous le permettez. La LAC peut toujours décider, comme l'a suggéré Sébastien, d'avoir un seul ensemble de procédures avec une décision formelle pour destituer cet administrateur. Le processus que l'on va voir à la recommandation 2 pour cette prise de décision, il y a beaucoup de décisions que nous devons prendre, et à moins de décider qu'il n'y ait d'autres seuils à utiliser, nous avons déjà des seuils qui ont été définis. Nos règles de procédure sont assez claires. On utilise 50%. On pourrait décider que pour certaines décisions, pour destituer un membre du conseil d'administration, par exemple, on pourrait utiliser un autre seuil, un autre pourcentage. On peut prendre cette décision bientôt, on pourra en parler, on pourra voir cela. Mais là, nous avons simplement des décisions à prendre. Et oui, les SO et les AC peuvent, dans le cadre des nouvelles règles, peuvent retirer un directeur avec le processus de forum communautaire et ainsi de suite dont on a parlé. C'est pas parce que l'on parle de tous les détails à chaque fois que ces détails n'existent pas. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir à ce sujet ? Oui, il y a beaucoup de règles pour notre prise de décision. Mais pour retirer l'administrateur du conseil d'administration, ça ne peut pas être moins, le seuil ne peut pas être moins que celui des nouveaux mécanismes de responsabilité. Il me semble que c'est 75%. Donc on est bien d'accord là-dessus, Thierry.
Bon. Je suis un nouveau venu, en français s'il vous plaît, je suis un nouveau venu dans vos débats et je ne me permettrai aujourd'hui que vous donner un avis juridique, purement juridique, parce que c'est mon métier. Lorsque vous choisissez ou vous élisez quelqu'un, vous lui donnez un mandat et vous devez choisir au niveau fondamental si le mandat est impératif ou s'il est représentatif. S'il est représentatif, il vous représente. Si c'est pour une durée de 3 ans, il fait les 3 ans. Il vous représente. Si au contraire, vous voulez lui fixer, lui donner des instructions, c'est un mandat impératif. Au cours de son mandat, vous lui donnerez des instructions qui devra répercuter au niveau du dessus de façon identique. Si naturellement, il n'exécute pas vos instructions, vous le destituez. Et vous le remplacez par quelqu'un d'autre. Si c'est un mandat représentatif, il va au bout de ses 3 ans de mandat, si c'est un mandat de 3 ans, et il peut être destitué seulement par le conseil d'administration auquel il appartient, mais plus par vous. J'ai fini.
Okay. Thank you.
Oui, merci beaucoup. Les directeurs à la CAN, les administrateurs, ne peuvent pas prendre d'ordre ou d'instruction des organisations qui les nomment. Donc, une fois qu'ils sont nommés, ils deviennent indépendants. Dans nos statuts, ils deviennent très indépendants. C'est dans nos statuts actuels. Et pour le moment, on ne peut pas retirer nous-mêmes notre directeur. C'est uniquement le conseil d'administration qui peut limoger un des administrateurs ou directeurs. Donc, nous avons dépensé 11 millions de dollars donc en frais de conseil juridique. C'était une décision complexe. Donc, quelqu'un d'autre veut intervenir à ce sujet ? Sébastien ?
Je pense que de temps en temps, on peut permettre à d'autres de s'exprimer, Monsieur le Président, et en particulier pouvoir répondre dans la langue de celui qui est intervenu. Vous avez autour de la table des gens qui ont peut-être un peu de compétences, qui sont membres du groupe de travail ou qui sont membres de la LAC et qui pourraient vous aider dans ce genre de choses. Thierry, la discussion... d'abord, merci de ton intervention. Je pense que c'est important que les nouveaux venus soient puissent intervenir et faire des propositions. La question que tu poses est une très bonne question, mais aujourd'hui, notre loi fondamentale, c'est celle de Californie. Et donc, la façon dont elle est mise en œuvre n'est pas la même que celle qu'il y a dans d'autres pays. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles l'ICANN a été créée comme ça et en Californie, qui fait que jusqu'à présent, c'est une organisation sans membres, qui est à but non lucratif, et que les membres du board, quand ils sont membres du board, dès cet instant-là, ils ne sont redevables que d'une chose, c'est de prendre en compte les intérêts de la corporation. C'est une des discussions de fond qu'on a eues qui nous a amené à toutes ces propositions, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis en désaccord avec un certain nombre de pouvoirs qui sont proposés ici, non pas parce que je ne veux pas que la communauté ait des pouvoirs, mais je veux que la communauté ait des pouvoirs utiles et pas des pouvoirs inutiles, des pouvoirs qui soient avec moins de bureaucratie et pas des pouvoirs avec plus de bureaucratie. Or, on est en train, comme on aime bien l'ICANN, de monter de plus en plus un monstre. Et ça n'est pas bon pour l'ICANN, mais ça n'est pas bon pour nous, utilisateurs finaux, parce que on va avoir de plus en plus de mal à trouver des gens qui sont prêts à s'investir, à comprendre comment ça fonctionne et à pouvoir participer. C'est un des dommages de cette discussion. C'est un dommage collatéral, mais qui pour moi est très fort. Merci.
Thank you. Thierry.
Merci. Thierry, vous avez la parole. Thierry.
J'ai entendu la réponse d'Alan et la remarque de Sébastien. Je me pose la question, y a-t-il encore un problème? Il n'y a plus de problème. La destitution ne peut venir que du conseil d'administration pour un de ses membres et pas venir d'en bas, semble-t-il.
Alan Greenberg au micro. Oui, l'ensemble de ces propositions ont été étudiées pendant 15 mois et les personnes qui ont participé à ce processus, à cette analyse, y compris 5 membres de ce groupe, anciens membres de ce groupe et membres informels de ce groupe, avaient des positions très, très différentes. C'est un compromis. Ce ne satisfait pas tout le monde. C'est un compromis que nous avons trouvé. C'est acceptable, mais ce n'est pas notre préférence très souvent. Et je crois que si on regarde la recommandation 4, il y a des aspects pour chacun d'entre nous que nous n'aurions pas choisis. Il y a des choses qu'on aime beaucoup. Et nous avons trouvé un compromis, nous sommes arrivés à un compromis. Et je crois que c'est un compromis qui ne sera pas dommageable et il n'est pas optimal, mais il est acceptable. Et si l'on doit voter là-dessus, nous le ferons et nous verrons si tout le monde est d'accord. Personnellement, ce n'est pas tout ce que je voulais voir. Moi, je ne l'aurais pas exactement fait comme cela, mais je ne suis pas le roi. C'est un compromis qui a été effectué. C'était vraiment un travail difficile de long débat. Donc, y a-t-il d'autres interventions sur la recommandation numéro 4? Eh bien, nous allons continuer pour passer à la recommandation numéro 2.
Bien. Alors, la recommandation numéro 2, ce n'est pas la deuxième partie de la révocation de l'ensemble du Conseil, mais la diapo numéro 31 que je veux. Merci. La recommandation numéro 2 porte sur le processus à travers lequel les différents pouvoirs peuvent être exercés. Le processus général, qui diffère un peu entre les différents pouvoirs, veut dire qu'il y a quelqu'un sentir qui doit présenter une pétition à travers une SO ou un AC, à militer bien sûr, pour prendre une des mesures comprises par les pouvoirs communautaires. Donc ça peut vouloir dire qu'il veut rejeter un statut constitutif, qu'il veut rejeter un budget, qu'il veut destituer l'ensemble du Conseil, un membre, qui que ce soit. Alors, cet SO ou AC doit prendre une décision dans les délais prévus, ce qui nous ramène à la manière dont on procède pour prendre des décisions. Mais en tout cas, il faut que l'on prenne des décisions à travers les seuils que l'on a en ce moment, c'est 50 plus 1, pour décider de procéder avec ce pouvoir. Si l'on décidait d'avancer avec le processus d'exercice du pouvoir, il faut que les autres AC et SO soient appliqués. S'il y avait un nombre d'SO et de AC qui est d'accord avec les fondements de la recommandation et soutiennent la pétition, nous allons invoquer un forum communautaire, ce qui veut dire qu'il y aura une discussion entre toutes les SO et AC. Et je dis toutes parce que ça veut dire les AC qui sont habilités et les AC qui ont choisi de ne pas l'être. Et cela inclura également le conseil d'administration, ce qui donnera au conseil l'occasion de peut-être résoudre le problème avant d'avoir à exercer le pouvoir communautaire. Si le forum communautaire a sa fin, puisque ce sera en général un forum de plusieurs jours, en téléconférence de préférence, ça pourrait être bien sûr une réunion présentielle si ça coïncidait avec une réunion publique de l'ICANN ou un autre événement. Mais en tout cas, si la communauté décidait d'exercer le pouvoir communautaire et qu'il y avait suffisamment de SOAC qui étaient d'accord avec l'exercice de ce pouvoir, on verra la quantité qu'il nous faut pour procéder. Chaque AC et SO devra prendre une décision informelle sur si appliquer le pouvoir, s'il exerçait ou pas. Donc si la SO ou le AC qui décide de procéder avec la pétition décide que le fondement justifie la procédure sans avoir à procéder avec la discussion, mais si il décide que la pétition est admissible et que le reste des AC et des SO décidaient de procéder, on pourrait passer à l'étape suivante. Il y a des exceptions, bien sûr. Si le pouvoir porte sur l'approbation d'un statut fondamental, il n'est pas nécessaire d'avoir une pétition. Le conseil d'administration pourrait décider de modifier le statut fondamental et invoquerait donc le processus de discussion immédiatement. Si l'on parlait de la destitution d'un administrateur individuel désigné par une SO ou un AC, bien que l'on doive passer par le processus complet, le seuil n'exigerait que l'SO ou AC qui a désigné cet administrateur pour continuer. Donc, on pourrait avoir un forum communautaire qui n'intéresse personne d'autre. Et alors, cet SO ou AC avancera, même si le reste des SO ou AC s'oppose. Alors, vous voyez, les conditions varient un peu. Et sur la diapo suivante, vous voyez un schéma. On passe à la diapo suivante. Merci. Je n'écrirai pas le processus, ça montre un peu ce qu'on vient de discuter. Et si on passe à la diapo suivante avec les seuils, un tableau bleu et blanc. Voilà. Ici, vous voyez pour chaque pouvoir combien de SO ou AC doivent soutenir la pétition pour d'abord convoquer un forum communautaire, ce qui varie entre 1 pour la destitution d'un administrateur individuel, et ça peut aller jusqu'à 3 pour certains des pouvoirs les plus importants. Après, l'on parle de la quantité de SOAC qui doivent soutenir la mesure pour exercer le pouvoir, et ça varie encore une fois de 1 pour la destitution des administrateurs désignés par les SOAC pour toute. Pour l'exercice de tous les pouvoirs, ça demande à peu près plus de 2 pour exercer le pouvoir. Les pouvoirs les plus importants, qui seraient le rejet des pouvoirs, des budgets et des plans opérationnels et stratégiques, pour rejeter les actions de Yana et les budgets de Yana, il faudrait que toutes les SOAC soient d'accord. En tout cas, pardon, ce tableau n'est pas correct. Hein. Je viens de voir, on ne l'avait pas dit, mais en fait, c'est plus de 1 objection, pas plus de 2. Pardon. Hein. La seule objection, puisqu'on a une objection ici, attendez, l'objection, oui, ça doit être moins de deux personnes qui s'opposent, moins de deux oppositions. Ah oui, vous avez raison. Alors, on peut l'exercer avec moins de deux, c'est ça, dit Alan. Pardon, hein, l'arithmétique m'abandonne. La seule exception, alors, et on a une exception, est ce qu'on discutait tout à l'heure lorsqu'on parlait de l'exclusion du GAC. C'est une procédure complexe que je vais répéter, bien que l'on ait déjà discuté de la procédure, parce qu'elle est un peu déroutante. Si la communauté choisissait de prendre des mesures... Pardon, non. Je recommence. Si le GAC conseille le conseil d'administration, s'il leur donne un avis, le conseil d'administration peut agir ou omettre d'agir en raison de cet avis du GAC. Si la communauté habilitée s'oppose à la mise en place ou à l'omission d'agir du conseil d'administration, elle peut agir. On sentait que le GAC, à travers son avis, a déjà beaucoup de pouvoir pour exiger une négociation avec le conseil d'administration et pour exiger au conseil même de trouver des compromis. Je ne sais pas comment le traduire, mais ils ont déjà le pouvoir d'exiger beaucoup du conseil d'administration. Ils ont beaucoup de contributions du processus. Si la communauté s'oppose à cela, on s'est dit que le GAC ne devrait pas être en mesure de se défendre encore une fois pour rejeter l'application de ce pouvoir communautaire. Alors, le GAC ne peut pas participer au pouvoir communautaire lié à l'opposition ou au rejet d'une action ou une omission d'agir du conseil d'administration en vertu d'un avis du GAC. Je ne sais pas si c'est bien compris. J'espère que ça a été clair. Vous me direz si ça a été correctement traduit. Cela présente un problème, un énigme, parce qu'il ne reste maintenant plus que 4 SOAC pour agir. Le CCWG, au début du processus, s'est dit qu'il ne serait pas correct d'exiger qu'il y ait des décisions prises à l'unanimité. Cela veut dire que s'il n'y avait que 4 et que l'on exigeait 4 pour certains des pouvoirs, comme vous voyez, il faudrait que ce soit une décision prise à l'unanimité. Donc la proposition du CCWG était de réduire le seuil à 3. Et c'était acceptable pour certains cas, mais c'était considéré inadmissible pour le cas de la révocation de l'ensemble du conseil d'administration. On ne pourrait pas avoir moins de toutes les SO et les AC qui décident de révoquer l'ensemble du conseil d'administration. Donc il a été proposé de réduire les noms à 3. Et le conseil s'est opposé à cela parce qu'il sentait, et l'ALAC était d'accord d'ailleurs avec le conseil, on s'est dit qu'on ne pouvait pas révoquer l'ensemble du conseil d'administration avec le soutien de 3 SOAC. Alors, la solution de compromis à laquelle on est arrivé était que si la communauté présente un processus de révision indépendante dont on discutera dans quelques instants et que ce processus de révision indépendante, le panel de révision indépendante, décidait que le conseil d'administration a manqué à ses statuts constitutifs et qu'il ne résout pas ce problème immédiatement, la communauté pourrait agir avec le soutien de 3 SOAC. Pour le reste des cas, le seuil serait toujours 4. Alors, vous voyez, il existe un cas où le conseil d'administration peut être révoqué avec le soutien de 3 SOAC, mais ce n'est que si cela résulte d'un avis du conseil d'administration, au conseil d'administration du GAC, ou si le conseil a agi de manière à manquer à ses statuts constitutifs. Autrement, ce pouvoir ne sera pas invoqué. L'invocation de ce pouvoir prend du temps et on s'attendrait à ce que, après une décision d'un panel de révision indépendant, le conseil devrait agir rapidement pour résoudre le problème. Mais si ce n'était pas le cas, le conseil d'administration pourrait être révoqué à travers la pétition ou avec le soutien de 3 SOAC. Je m'excuse d'avoir décrit si longuement ce processus. Maintenant, j'ouvre la liste d'intervenants. J'ai Jimmy et Salé. Jimmy prend la parole. Merci Alan. J'aime bien cette idée de pétition et de participation directe qui est disponible à tous. Je veux vérifier que j'ai bien compris. Pour être franche ici, n'importe quelle personne peut initier une pétition, est-ce correct ? Alain prend la parole. Oui, pas seulement les personnes, les chiens pourraient le faire aussi. Bien, donc tout le monde peut présenter des pétitions, correct, dit Jimmy. J'accepte tout ce qui est là, tout ce qu'on a déjà discuté, mais je n'ai qu'une question, en fait. On a un risque d'attaque, de refus de services distribués, parce que, par exemple, la pétition pourrait être un succès plus grand qu'attendu, parce que si on a 6 000 demandes par jour, 6 000 pétitions, on n'aurait pas la capacité de tout traiter. Est-ce que vous avez discuté de cela? Parce qu'en fait, moi, j'étais membre du Parlement, spécifiquement, je participais au comité de pétition, et on recevait des milliers de pétitions par an. Et il nous fallait un comité spécial qui filtre les pétitions et qui se concentre sur celles qui étaient admissibles. Donc, est-ce que vous avez discuté de cela auparavant? Alain prend la parole. Oui, je répondrai si ça ne vous gêne pas. Oui, on en a discuté. Et je vous rappelle que ce sont des demandes présentées aux ESSO et aux AC, pas à l'ICANN. Donc ça va être les bénévoles qui vont devoir traiter ces pétitions. Ça a été discuté et franchement, on sentait que c'était un cas unique en fait. Parce qu'il n'y a pas tellement de personnes qui soient intéressées à ce processus. Probablement, on pourrait le faire facilement, mais si cela devenait un vrai problème, c'est vrai qu'il faudrait que l'on prenne des mesures là-dessus. Mais si la LAC maintenait ses propres mesures, décidait de mettre en place sa propre procédure pour traiter les demandes, ou les pétitions, ou les demandes, les présentations de pétitions, je ne pense pas que l'on pourrait dire qu'on ne sait pas si la pétition sera rejetée ou pas. Parce que c'est ça, en fait, l'esprit de cette mesure. On s'est dit qu'on était ouvert, qu'on était responsable envers la communauté. Donc, on devrait le traiter. Mais oui, c'est vrai, ça pourrait être un problème qu'on devrait aborder rapidement. Sandra était la suivante. Sandra Hofer-Richter prend la parole. Merci, Alan. Je suis peut-être la seule dans la salle à ne pas avoir complètement compris cette exclusion du GAC. J'ai compris la première partie de ce que vous avez expliqué. Le GAC donne un avis au Conseil et le Conseil agit en vertu de cet avis. Si la communauté n'est pas d'accord, elle peut rejeter cette mise en place du Conseil, de l'avis du GAC. Et puis, le GAC ne peut pas participer à cette opposition. Est-ce correct? Alan prend la parole, pardon. Oui, ils peuvent défendre la mise en place de cette mesure, mais ils ne peuvent pas participer à l'exercice du pouvoir communautaire comme membre de la communauté habilitée. Mais ils ne peuvent pas s'opposer à une objection de mise en place de l'avis. Sandra prend la parole. Alors, c'est ça que vous appelez l'exclusion du GAC. Lorsque le conseil est limité, parce qu'on sépare en fait la communauté habilitée ici, on les sépare, on les exclut de la communauté habilitée, n'est-ce pas? Mais par la suite, vous avez dit que si le conseil d'administration manque à ses statuts constitutifs, je ne comprends pas quel est le rapport entre ce manquement au statut et l'exclusion du GAC. C'est ça qui m'a confondu un peu. Pardon, hein, mais je ne suis pas. Alan prend la parole. Oui, j'essaierai de vous expliquer. Peut-être que quelqu'un d'autre pourrait essayer d'expliquer un peu plus clairement. Si le GAC donne un avis, par exemple, le GAC donne un avis qui dit que l'ICANN devrait exiger à tous les GTLD de faire quelque chose de bête, que tout le monde devrait fournir du contexte à ses sites web, ce qui s'oppose au statut constitutif de l'ICANN, qui dit on ne demande pas de contact. Si le GAC donnait cet avis d'exiger un contact sur tous les sites et que le conseil d'administration l'appliquait, le reste de la communauté pourrait, entre autres, lancer un processus de révision indépendante, un IRP, et si ce processus de révision indépendante trouve que le Conseil a manqué à ses statuts constitutifs, tel que ce serait le cas dans l'occasion que je viens de décrire, et que le Conseil d'administration ne résout pas ce problème, le reste de la communauté pourrait révoquer l'ensemble du conseil d'administration avec le soutien de 3 SOAC. Ce n'est pas un cas probable, mais est-ce que c'est plus clair? Sandra prend la parole. Oui, mais pourquoi le Conseil manquerait-il au statut constitutif s'il suit un avis du GAC, même si c'est un avis bête? De suivre un avis qui n'est pas sensible pour la communauté, mais c'est l'avis du GAC. Pourquoi parle-t-on des statuts constitutifs? Je ne vois pas. Alan prend la parole. Oui, les statuts établissent un nombre de dispositions. Les nouveaux statuts vont dire que l'ICANN ne contrôle pas les contenus des noms de domaine qui sont utilisés, qui sont attribués à travers les processus de l'ICANN. Donc, si vous avez sandra.com, vous pouvez publier ce que vous voulez sur sandra.com. Vous manquez peut-être aux droits de propriété intellectuelle de quelqu'un d'autre qui pourrait intenter un procès contre vous, mais l'ICANN ne pourrait rien vous dire. Or, si l'ICANN disait que Sandra.com est exigé de publier un certain contenu sur son site web, si le GAC disait que Sandra.com doit publier un certain contenu et que l'ICANN le faisait, la communauté pourrait s'y opposer. Sandra prend la parole. Alors, si le Conseil agit dans le respect des statuts constitutifs et que la communauté n'est pas satisfaite de cette mise en place, Alan, au micro, si la communauté initiait un processus de révision indépendante qui trouvait que le Conseil a agi dans le respect des statuts constitutifs, le seuil serait de 4 SOAC. Si la communauté s'opposait à la mise en place d'une action par le Conseil d'administration, il faudrait que toutes les SOAC soient d'accord pour révoquer le Conseil d'administration. Donc, si on n'aime pas un avis du GAC et que le Conseil suivait cet avis du GAC parce qu'il trouvait qu'il serait raisonnable de le faire, le reste de la communauté doit agir de manière unanime, ce qui veut dire que la GNSO, la CCNSO, la SO, qui ont différents intérêts, et la LAC, décidaient toutes de révoquer l'ensemble du conseil d'administration, ou pourraient le faire. Ça n'aura jamais lieu, je sais, mais moi je suis vieux et peut-être que vous le verrez un jour. On a Sean maintenant. Sean prend la parole. Merci. Concernant les objections, je pense qu'on a mal mis les colonnes. On discute ici du soutien et on devrait parler d'objections. Alan prend la parole. Non, Tijani m'a déjà corrigé. Je précise, on dit que le pouvoir peut être exercé. Par exemple, si l'on voulait rejeter un budget, le pouvoir peut être exercé si l'on a au moins 4 SOAC qui soutiennent l'exercice de ce pouvoir et moins de 2 qui s'opposent à cet exercice du pouvoir communautaire. Pour le cas de 4 et 2, bien sûr, ça n'a aucun sens parce qu'on n'est que 5. Mais si vous voyez le cas du soutien ou du veto des amendements à un statut constitutif. S'il y a 3 SOAC qui soutiennent la mesure et il n'y a qu'une qui s'oppose et que le 5e membre de la communauté ne s'exprimait pas, le pouvoir serait exercé. Sean prend la parole. Ah oui, d'accord, merci. Je pensais que vous essayiez de montrer qu'il nous faut un minimum de 2 qui soutiennent l'exercice du pouvoir pour pouvoir le faire. Alors, pour rebondir sur ce que disait Sandra, je voudrais poser une question. Si la LAC écrit un conseil au conseil d'administration et que le conseil d'administration met en place cet avis de la LAC, mettons que c'est quelque chose qu'un autre comité n'aime pas, est-ce que la LAC peut exercer son droit de vote ou est-ce que la LAC serait exclue dans ce cas-là? Alan prend la parole. Oui, on ne voit pas son hochement de tête, hein, mais la réponse est oui, on peut exercer notre droit de vote de toute façon parce que le Conseil pourrait accepter notre avis, mais il pourrait ne pas vouloir suivre le processus qui suit pour le GAC, qui ne sont pas exigés ou tenus de négocier avec nous. Sean prend la parole. Alors, bien, si j'ai bien compris, La vie actuelle, lorsqu'on parle d'avis, est-ce que le conseil a le droit de refuser l'avis? Et puis si le conseil d'administration l'accepte, est-ce qu'ils auront fait un choix et pris une décision informée du processus pour accepter cet avis? Après dire, on est peut-être au-delà déjà de la question du CAC, mais je voudrais encore une fois répéter mon inquiétude concernant cette exclusion du GAC. Un avis est un avis. Au sein du CCWG, dans la proposition du CCWG, on a également inclus une exigence pour que le Conseil ne soit tenu d'agir et de suivre que ce processus que si l'avis du GAC est consensuel. Et je le dis parce que le GAC est également un comité consultatif, un AC, comme on les appelle. Donc pour exercer le pouvoir d'un AC, on considère que l'ALAC va protéger les intérêts des utilisateurs finaux. Donc c'est ça qui devrait nous préoccuper. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais on devrait peut-être considérer cette question particulière. Alan prend la parole. Merci. Alors, un avis est un avis et le Conseil n'est pas tenu de suivre les avis. Ils sont par contre tenus de suivre un processus pour rejeter l'avis dans le cas du GAC. Rappelez-vous que dans les statuts constitutifs actuels, le texte tel qu'il est rédigé dit que l'ICANN est dirigé par le secteur privé. Il y a eu de nombreuses discussions au sein du CCWG au sujet de ce qu'on veut dire par le secteur privé. À l'époque où cela a été rédigé, on disait que c'était le secteur public vis-à-vis du secteur privé. Donc public, c'est les gouvernements. Privé, ça veut dire les sociétés commerciales. On parle également des sociétés à but non lucratif. Cette fois-ci, on a précisé un peu plus pour dire, ça veut dire toutes les parties prenantes, à l'exception des gouvernements. Au moment où l'ICANN a été fondée, on avait l'intention de ne pas être dirigé par les gouvernements, de manière à ce que les gouvernements ne nous contrôlent pas, mais qu'elles puissent faire des contributions. À l'époque, il n'était pas clair que le conseil consultatif gouvernemental faisait partie du GAC. D'ailleurs, il y en avait qui pensaient que le GAC était externe à l'ICANN, complètement séparé de l'ICANN, mais qui conseillait l'ICANN. Et cela a beaucoup changé au cours des années, mais on sent de toute façon que les gouvernements ne devraient pas avoir trop de pouvoir pour contrôler l'ICANN et qu'on ne voulait pas avoir une ICANN contrôlée par les gouvernements comme le reste des entités de réglementation de télécommunications, par exemple. Donc c'est ça un peu l'historique. On a évolué à mesure que le temps est passé et c'est ça le compromis qui a été trouvé pour satisfaire les différentes personnes. Vous verrez, lorsqu'on arrivera à la recommandation numéro 11, on devrait peut-être avancer parce qu'il ne nous reste pas énormément de temps, mais nous allons discuter de cet aspect particulier des avis du comité consultatif gouvernemental dans davantage de détails. D'accord, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Alors, on a une pause café d'ici 15 minutes, il nous reste 15 minutes. Y a-t-il d'autres commentaires à faire sur cette recommandation? On a Tijani maintenant. Merci Alan, c'est Tijani au micro. Jimmy, concernant les pétitions, comme vous avez dit, nous avons recevoir de nombreuses pétitions, beaucoup de pétitions, mais elles n'ont aucune valeur si elles ne sont pas soutenues par une SO ou un AC ou plus, ça dépend du pouvoir à exercer. S'il s'agit de la destitution d'un administrateur, il y a une SO ou un AC spécifique qui doit soutenir cette pétition. Mais les pétitions qui sont présentées par des personnes autres que les membres de la communauté habilitée ne peuvent pas avoir des conséquences, sauf si elles sont soutenues par des SO ou des AC. Je vais maintenant parler en arabe pour le reste de mon intervention. Lorsque l'on a ce cas des avis du GAC, On a vu cela comme un grand problème parce que c'était assez compliqué. Hein. D'une part, on voyait qu'il ne devrait pas être possible que le GAC ait le pouvoir de vote au sujet d'une mesure qui était le résultat d'un avis du GAC. Et alors les personnes se sont dit qu'il fallait que les SO, les membres de la CSNSO et de la GNSO par exemple, rejettent ces mesures. Et alors lorsqu'il s'agit des pouvoirs communautaires, on s'est dit qu'ils ne devraient peut-être pas avoir le pouvoir de participer à une décision prise par la communauté habilitée. Mais dès le début, on s'est dit que pour tout ce qui porte sur le GAC ne devrait pas avoir le pouvoir d'intervenir, il ne devrait pas pouvoir participer. Et c'est ce qui a été décidé. Maintenant, on revient au résultat de cette question. Et finalement, on essaie d'arriver à une solution où, par exemple, s'il fallait révoquer l'ensemble du conseil d'administration, on pourrait le faire avec le soutien de trois SOAC qui décidaient de supprimer, de destituer l'ensemble du conseil d'administration. Pour moi et pour beaucoup d'autres membres de la CCWG et d'autres communautés, ils n'étaient pas tous d'accord que cela était acceptable. Et cependant, la solution que le conseil d'administration a trouvée a été acceptée par le groupe, bien que pas avec plaisir, parce que les personnes avaient différents avis et on ne voulait pas changer d'avis, mais les personnes voulaient changer la solution qui était acceptable au point où on décidait de ne pas s'opposer à ce qui avait été décidé pour pouvoir continuer d'avancer. Merci. Merci Tijani, Alain au micro. Encore une fois, je partagerai avec vous une anecdote qui a eu lieu au cours de nos travaux et c'est associé à la recommandation numéro 11. Mais on s'est dit qu'une décision du conseil d'administration devait être adoptée par 50%, ce qui est le seuil actuel. Un groupe disait qu'il fallait 66%, un autre groupe disait qu'il fallait 50% de voix affirmatives et il n'y avait aucune possibilité de les faire changer d'avis. Donc la question est si on devrait avoir 7 administrateurs ou 9. Alors, le compromis était 60%. Finalement, on est arrivé à ce point de compromis, ce qui veut dire 8 administrateurs, ni 7 ni 9. Ce type de décision doit être prise à l'unanimité si elle est prise. Donc il faut être direct pour que les personnes puissent trouver un compromis. Parce que tout le monde a perdu un peu ici. Et c'est une bonne description de beaucoup des décisions qui ont été prises. Les décisions ne sont pas toujours sensées, mais elles permettent aux personnes de trouver un compromis. Y a-t-il d'autres remarques concernant la recommandation numéro 2 ? Il manque peu pour la pause café. Il manque combien ? 14 minutes. Bien. Alors, on a le temps d'avancer un peu, de passer à la recommandation suivante qui va être difficile. Je vous dis directement. La recommandation suivante est la numéro 5 qui apporte des modifications à la mission et aux valeurs fondamentales de l'ICANN qui font maintenant partie de la mission et des engagements et des valeurs fondamentales de l'ICANN. Il y a eu de nombreuses modifications qui ont été apportées pour préciser certains doutes dans la mission, pour préciser un peu le texte, pour que ce soit plus clair. Certains soupçonnaient que l'ICANN essaierait d'aller au-delà de sa mission. Il y en a qui étaient préoccupés par le fait qu'on ne voulait pas que l'ICANN élargisse son pouvoir sur les CCTLD ou les GTLD. Et certaines de ces modifications, à notre avis, étaient bénéfiques. Elles ont apporté des précisions à ce qu'on avait. D'autres sentaient qu'on allait au-delà des limites de notre mission et qu'on ne pouvait absolument pas accepter cela. Et c'est la recommandation sur laquelle la LAC a fait le plus de commentaires depuis le début de notre discussion, à une seule exception. On a pu réaliser la plupart des modifications que l'on trouvait admissibles. un nombre de ces modifications et c'est tout été soutenu par le conseil d'administration. Rappelez-vous que le conseil fait partie de la communauté, mais il s'agit également de l'entité qui doit approuver ces statuts constitutifs. Donc il n'était pas probable que le conseil approuve ces modifications si elles étaient pas positives pour l'organisation. Il n'y avait pas de manière positive de pouvoir tout faire sans avoir des pages et des pages de modifications, des diapos et des diapos consacrés à ces modifications dans la présentation. On ne voulait pas douter du groupe qui avait étudié de cela, mais on voulait de toute façon considérer les détails de cette proposition, de cette recommandation. J'assume que les personnes l'auront fait si elles ont choisi de participer. Je pense donc que ce n'est pas la peine d'entrer ici dans d'autres détails, mais il est possible qu'il y ait quelqu'un ici qui est entré dans les détails et qu'il y ait des inquiétudes qui doivent être exprimées à ce point-là. Donc on va passer à une pause café d'ici 10 minutes, mais nous allons commencer dès maintenant à traiter ces préoccupations. Si vous avez des remarques à faire ou si vous êtes préoccupé par le niveau de détail, c'est le moment de vous exprimer. C'est une question complexe et il est fort probable que ce soit la seule recommandation qui pourrait représenter un risque pour l'ICANN. Surtout parce que certaines des versions préliminaires, au moins à notre avis, n'auraient pas permis à l'ICANN de soutenir ses propres contrats. Ce sont les contrats avec les bureaux d'enregistrement et avec les registres qui auront pu être annulés en vertu des modifications à la mission. Et on sentait que cela ne devrait pas être permis. Il y a eu d'autres parties prenantes au sein du groupe qui voulaient pouvoir manquer à certaines dispositions des contrats pour pouvoir apporter des modifications à ce qui avait été conclu. Donc vous voyez, c'est un domaine où il y avait différents avis. Et je vous donne la parole maintenant.
Eh bien, nous essayons de voir si le café est déjà prêt. Si le café est prêt, on prendra peut-être une pause café. C'est au premier étage, à l'étage supérieur. On vérifie un petit peu. Mais donc, en tout cas, Cheryl, vous voulez prendre la parole, Cheryl Engelmann? Oui. Moi, ce que je voulais dire, parce que il semble qu'il n'y ait pas beaucoup de questions qui surgissent maintenant, mais je crois que le montant de travail qui a été effectué par ces cinq représentants a été absolument significatif et extraordinaire. Et en plus, nous avons eu également, sur cette recommandation, un montant énorme d'heures qui ont été engagées véritablement pour bien comprendre tous les détails, pour parler de toutes les inquiétudes que nous avions, mis à part l'inclusion de la confiance du consommateur. Donc c'est le seul moment où on n'a pas réussi à bien faire entendre nos préoccupations. Donc c'est une partie essentielle du nouveau processus à venir. Donc à moins que vous ayez des préoccupations fortes et à moins que vous ne pensiez que le travail que vos membres et participants ont fait en votre nom, j'aimerais que vous nous fassiez confiance. Voilà ce que je veux dire. C'est absolument impossible de réouvrir tout cela, de repartir à zéro. Je crois qu'on a obtenu un des meilleurs résultats possibles. C'est très complexe, mais c'est véritablement quelque chose qui a été étudié de très près durant de nombreuses heures. Et moi, je crois qu'on a obtenu le meilleur compromis possible, la meilleure solution possible après tout le travail effectué. Merci beaucoup. Alan au micro. Oui, et Cheryl faisait partie de ces membres, ces cinq membres du groupe qui ont travaillé en notre nom. Elle était à la tête également du processus pour regrouper un petit peu les différents éléments. Et même si elle n'était pas à la tête de tout, elle était vraiment au groupe de direction. Et je sais que Cheryl a travaillé peut-être deux ou trois fois plus que les autres, c'est ce qu'elle nous dit. Donc, je ne vais pas vous donner un nombre d'heures. Donc, il y a quelqu'un qui veut prendre... Je ne vois pas de cas. Tu veux... Qui veut prendre la parole? Ah, excusez-moi. Sifa, je vous donne la parole tout de suite. Je termine. Donc, ces nombres incalculables d'heures qui ont été dédiées au processus. J'essaie de trouver la colonne où je pourrais trouver quelques chiffres. En tout, je crois qu'il y avait, le CCW a fait 26 000 heures de travail là-dedans. Et un travail également qu'on ne compte pas par email, par contact personnel et ainsi de suite. Donc, 1750 heures de notre part, de notre groupe, de notre petit groupe. Donc, lorsque je dis « nous avons décidé que nous n'aimions pas certains aspects de la proposition, que nous avons décidé de faire des compromis », c'était vraiment un effort énorme de la part de nombreuses personnes, pas seulement de Greenberg et d'autres qui parlaient en aparté parfois. Donc, vraiment, cela représente à quel point notre communauté est engagée, la communauté at large, travaille beaucoup, et ce n'était pas toujours les mêmes qui travaillaient. C'est des personnes qui contribuaient à ces nombreuses réunions. Des personnes dont vous ne connaissez peut-être pas les noms, donc vraiment, ça a été un processus long et lourd. Alors, est-ce que le café est disponible? Donc, nous avons du café ici, mais... Ah non, la pause café sera ici, dans cette salle. D'accord, je n'avais pas compris. Je croyais qu'on allait passer au rez-de-chaussée, au premier étage. Donc, personne ne dit rien au président de séance. Donc, Sifa, vous avez la parole. Non, ça arrive. Il y a du café frais qui arrive. Donc, Sifa au micro. Alan, vous nous disiez que ce que cela représentait... des contrats, j'ai pas bien compris le rapport, des contrats avec les bureaux d'enregistrement et les registres. Est-ce que vous pourriez préciser à ce sujet? Et donc l'engagement des registres et des bureaux d'enregistrement, est-ce qu'il y a eu d'autres compromis qui ont été effectués dans ce sens ou dans ce cadre? Alan Greenberg, oui, un exemple précis que je vous donnerai pour être plus clair. Dans nos statuts actuels, on nous dit que les politiques doivent être définies par un processus ascendant. Ça, c'est la philosophie GNSO, de la GNSO, de la mise en œuvre des politiques. Il y a eu un groupe de travail qui a fait beaucoup ces dernières années. Comment reconnaître les politiques par rapport aux mises en œuvre? Donc, on a mis 5 ans à travailler de nouveau GTLD. On a découvert de nombreux problèmes qui existaient. Et dans certains cas, le conseil d'administration a résolu ces problèmes. Un des aspects les plus saillants, c'est que, en raison de la réunion de Beijing, d'un conseil du GAC, eh bien, ou même avant cela, pardon, il y a eu un engagement envers l'intérêt public. Il y a eu tout ce processus où les entreprises pouvaient faire des engagements, prendre des engagements et être inclus dans le contrat. En raison de conseils du GAC, le conseil d'administration a mis des critères obligatoires. Les règles d'aujourd'hui, il y a des différences d'opinion à ce sujet, les règles d'intérêt public sont des politiques et auraient dû être développées par un processus ascendant. Ce n'a pas été le cas. Et donc, si nous n'avons pas pris de mesures pour protéger ces contrats, on aurait pu dire que les engagements d'intérêt public étaient en violation avec la mission de l'ICANN et donc caduques, invalides. Vous voyez, un autre exemple, l'ICANN ne contrôle pas les contenus. Il y a des demandeurs de dossiers GTLD qui pourraient parler de contenu dans certains cas. Il y a des domaines parrainés et il y a différents critères à ce sujet. Mais le contrat ne rentre pas parfois dans tous ces détails. Donc ça, c'est un problème juridique. Ça dépend des cours de justice, le cas échéant. Ce seraient des décisions du cours de justice qui seraient différentes. Donc j'espère que j'ai essayé de mon mieux de répondre à vos questions. Mais vous savez, il y a des choses très complexes qu'on ne peut pas répondre en une seule phrase. Donc, d'autres questions dans la salle ? Donc, recommandation numéro 6. Nous passons à la prochaine recommandation, la numéro 6. Voyons un petit peu à quoi elle ressemble, cette recommandation 6. Je ne sais pas combien de temps cela pourrait nous prendre. Oui, réaffirmer l'engagement de l'ICANN envers les droits de l'homme. Ça, c'est une question un petit peu épineuse. Je crois qu'on a besoin de la pause café de 15 minutes avant de nous retrouver pour parler de cette recommandation numéro 6. On se retrouve dans 15 minutes. Merci beaucoup. Donc, il y a de meilleurs petits gâteaux à l'étage supérieur, mais on recommence. S'il vous plaît, on recommence. Mesdames et messieurs, nous reprenons le cours de notre travail à 5 minutes avant la prochaine heure, donc dans un quart d'heure. 5h05. 17h05. 16h05.
I'm Ladies and gentlemen.
Mesdames et messieurs, nous avons déjà donné 5 minutes supplémentaires pour votre pause. Nous allons reprendre notre travail.
Ladies and gentlemen.
Mesdames et messieurs. Nous sommes à la recommandation numéro 6. Oui, très très joli, très joli chapeau. Très bien. Revenons un petit peu en arrière à ce sujet. Les droits de l'homme, l'accord international sur les droits de l'homme, par rapport aux gouvernements qui font des lois dans leur pays, qui doivent respecter les droits de l'homme. Il y a différents types de droits de l'homme. On a fait beaucoup de déclarations par rapport au travail du CCWG, je crois que l'ICANN n'a pas besoin de s'inquiéter des règles sur l'esclavage. Peut-être pas. Je ne sais pas. Non, c'est une petite plaisanterie. Nous sommes des bénévoles. Nous sommes ici des volontaires. De notre plein gré, nous travaillons. Et nous savons qu'il y a par contre des avocats qui ont gagné beaucoup d'argent. Ça ne me dérangerait pas de recevoir ce type d'émolument. Jusqu'à présent, le contrat de IANA est avec le gouvernement des États-Unis, qui, lui, est sujet aux traités internationaux signés par les États-Unis d'Amérique. Et en théorie, si l'ICANN avait fait quelque chose qui, selon le gouvernement américain, violerait les traités sur les droits de l'homme, des actions auraient pu être prises. Cela n'a jamais été le cas. On ne pense pas que ce sera jamais le cas, mais théoriquement, c'est possible. Étant donné que le gouvernement américain ne sera plus dans le cadre des débats, n'aura plus voix au chapitre, l'ICANN, dans ses statuts, doit soutenir les droits de l'homme d'une manière explicite. On nous dit déjà qu'on va suivre les traités internationaux applicables, mais beaucoup de personnes pensent, où certaines personnes pensent, que nous devrions mentionner les droits de l'homme dans nos statuts. Il y a une inquiétude provenant de beaucoup de personnes que d'insérer une déclaration que nous respectons, nous suivons les droits de l'homme sans bien comprendre ce que cela signifie dans le cadre du contexte de l'ICANN est une invitation non pas à de véritables problèmes opérationnels, mais avoir des poursuites judiciaires frivoles. Très souvent, les défenseurs des droits de l'homme, potentiellement peut-être poursuivis par certaines personnes en justice, on pourrait nous dire, vous savez, la liberté d'expression a été violée à cause de telle ou telle règle de l'ICANN, ou bien en mettant des règles qui ne permettaient pas d'inscrire un nom de domaine précis, eh bien là, vous violez les droits de l'homme. On pourrait nous accuser de choses de ce type dans les noms de domaine. On pourrait nous accuser de violer ou impliquer que nous violons les droits de l'homme, que nous ne les respectons pas. Nous pourrions être sujets à des poursuites judiciaires. Nous ne sommes pas inquiets d'être coupables de quoi que ce soit, mais il ne s'agit pas d'être coupable ou pas. On risque d'avoir des poursuites judiciaires très onéreuses. C'est les inquiétudes de certains. D'autres personnes ont dit, tant que l'on définit pas clairement les droits de l'homme, qu'on comprend bien ce que l'on veut dire par droits de l'homme, on ne devrait pas mentionner les droits de l'homme dans nos statuts. Donc, il y a eu des compromis qui ont été suggérés. On peut le mentionner, mais dire on ne peut pas prendre de mesures à ce sujet. Et rien ne rentre en vigueur au sujet des droits de l'homme. On ne prend pas de mesures sur les droits de l'homme. Cela nous protégerait au niveau de notre propre processus, mais cela ne nous protégerait pas de poursuites judiciaires. Une cour de justice peut dire que s'il y a le terme « droit de l'homme » et qu'on ne le définit pas clairement dans les statuts, eh bien, on peut être poursuivi. Il y a beaucoup de scénarios possibles. Il y a de véritables peurs et véritables inquiétudes. Je ne suis pas en mesure de juger du fait avéré de ces inquiétudes, mais nous devons absolument trouver un compromis et un libellé qui soit des termes de compromis que l'on trouve au transparent 48, je crois que c'est le prochain. Donc, voilà. Je vais vous le lire si vous le permettez, parce que ça compte, chaque mot compte. Dans le cas de ces valeurs fondamentales, la CAN s'engage à respecter les droits de l'homme tels qu'internationalement reconnus et tels que requis par la loi qui s'applique. Cette clause ne crée pas des obligations supplémentaires pour la CAN de répondre à toute plainte, demande, demandant que l'on fasse respecter les droits de l'homme, que la CAN fasse respecter les droits de l'homme. Nous avons un cadre d'interprétation pour les droits de l'homme développé par le CCWG, ce qui est la recommandation par consensus dans le cadre du flux de travail numéro 2 à la suite de l'approbation des organisations fondatrices. Et il y a eu l'approbation par le conseil d'administration de la CAN utilisant les mêmes processus et les critères tels que cela a été engagé par d'autres recommandations. Donc ça, ce sont les instructions de nos juristes. Donc je vous ai donné quelques exemples. Je ne crois pas qu'on doit parler du CCWG dans nos statuts, parce que ça totalement en dehors des statuts. On ne parle pas du CCWG, de ce groupe de travail, et du travail qu'on a effectué avec différents courants 1 et 2. Mais ce que cela dit, et c'est souvent le cas dans des statuts, on a des clauses qui ne rentrent pas en vigueur avant que quelque chose se passe. C'est tout à fait raisonnable d'avoir cela. Mais il y a une chance raisonnable que lorsque nous développons la liberté d'interprétation sur les droits de l'homme, à ce moment-là, une fois que ça sera développé, on pourra changer un petit peu nos statuts. Mais pour le moment, ça dit, en gros, nous sommes conscients des droits de l'homme, de leur importance, mais nous n'avons pas de clause en rapport avec cela tant qu'on n'a pas encore bien expliqué ce qu'étaient les droits de l'homme. Ça, c'est un compromis qui a été accepté par les personnes qui étaient absolument contre mettre quoi que ce soit sur les droits de l'homme dans les statuts, et accepté également par la personne qui voulait absolument qu'on parle des droits de l'homme dans nos statuts. Donc ce n'est pas parfait pour qui que ce soit, c'est un compromis, un texte de compromis, un statut de compromis, et le CCWG a accepté cela, et je vous donne la parole si vous voulez commenter à ce sujet. Shiva, vous avez le micro? Non. Oui, merci Alan. Statut de compromis, je vois ce libellé, ça me paraît acceptable, mais est-ce qu'il est possible que, plutôt que ça fasse partie des statuts, puisque l'on parle du CCWG, du groupe de travail, est-ce qu'on a besoin vraiment de mentionner cela, mentionner le CCWG? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une autre méthode plutôt que ça fasse partie des statuts? Est-ce qu'on pourrait avoir des statuts par intérim? Est-ce que ça pourrait être tout simplement une déclaration de l'ICANN dans un document périphérique? Peut-être que l'ICANN pourrait le mettre dans une annexe à des documents. Donc ça nous permet de continuer à y travailler dans le courant de travail numéro 2. Et ça parle de nos valeurs de base. Pourquoi ça devrait faire partie des statuts? Moi, j'ai une petite entreprise et dans mes statuts, on ne parle pas du respect des droits de l'homme. Mais ça ne veut pas dire que j'ai le droit de violer les droits de l'homme. Donc ça n'a pas besoin d'être dans les statuts. Selon moi, je crois que ça doit être dans un document périphérique, un autre document, oui. Je vais vous donner deux réponses très rapides parce que beaucoup d'autres personnes veulent prendre la parole. Donc, est-ce que vous avez le droit de violer les droits de l'homme? Ça dépend des lois de votre pays. Ça dépend des lois que vous devez respecter parce que vous êtes citoyen d'un pays ou d'un autre. Est-ce que nous pourrions faire une déclaration promettant de faire quelque chose? C'est ce que je pense que vous vouliez dire. Je ne peux pas vous dire combien d'heures nous avons passé à parler de choses de ce type. Et c'est pour ça qu'on est arrivé avec cette solution de compromis qui a été longuement travaillée. On ne peut pas la réouvrir, on peut simplement l'accepter ou la refuser. Donc j'ai une liste de personnes qui veulent intervenir. Je crois que nous avons tout d'abord Tijani. Donc Tijani, Vanda Cherol, Terry et Ajar. Tijani, vous avez la parole.
On sait maintenant. J'ai voulu vous dire un petit peu, Alan a résumé ça, mais je vais vous donner quelques éléments de plus sur les choses, comment elles se sont passées à l'intérieur de ce groupe et pourquoi nous sommes arrivés là. Quand on a commencé nos discussions, il y a une année et demie ou deux ans, ces mêmes personnes ont demandé qu'on mette les droits d'homme, les droits humains, dans nos travaux. Et on a expliqué, personnellement j'ai expliqué que il n'y a pas de raison de mettre les droits de l'homme dans notre travaux parce que nous n'avons rien à voir avec le contenu. Et donc nous sommes là pour les noms et les nombres, donc les noms de domaine et les adresses IP. Et donc il n'y a rien des droits de l'homme qui peuvent s'appliquer là-dessus. Et au départ, on est resté plusieurs mois avec une majorité de personnes qui appuyaient mon point de vue. Et donc, on n'a pas ajouté ou travaillé sur les droits de l'homme dans ce travail-là. Mais par la suite, donc, et ces gens-là ont fait des petits, ils sont venus plus nombreux et ils ont demandé avec plus de force. C'est pour cela que maintenant, nous étions obligés de les mettre dans nos rapports. Bon. L'un des soucis que j'avais, c'est que ces gens-là voulaient qu'il y ait un interim bylaw, c'est-à-dire intermédiaire, c'est ça. Et j'ai posé la question, pourquoi? Pourquoi on a besoin de ça? On avait d'autres points qui étaient très importants, cruciaux pour nos travaux, et qu'on avait dit qu'on allait traiter en Workstream 2, et pour lesquels on n'a pas fait d'interim bylaw. Pourquoi les droits de l'homme, qu'on a décidé aussi de les mettre dans le Workstream 2, pourquoi pour cela nous avons besoin d'un interim bylaw? Bon, les gens ont dit, si on ne les met pas maintenant, ça ne va plus se faire, donc il faudrait que ça soit là-dedans. Bon, il y avait d'autres soucis, plusieurs soucis. Des soucis du genre, par exemple, moi j'ai dit que si on les met comme ça, tel que c'est, sans préciser, eh bien on pourrait nous dire un jour, il ne faut pas déléguer ce nom de domaine parce que son propriétaire, il ne respecte pas les droits de l'homme. Et ça c'est très grave, parce que ICANN n'a rien à voir avec le contenu. ICANN n'a rien à voir avec ce qui va être dedans, dans ce nom de domaine. Ce nom de domaine, qu'est-ce qu'il va transporter? c'est pas notre problème. Donc, et on a insisté là-dessus. C'est pour cela qu'on a ajouté dans le cadre de sa mission. Malheureusement, le board, le conseil d'administration n'a pas voulu cette phrase-là parce qu'il pensait que nous allons mettre la clause des droits de l'homme dans la mission d'ICANN. Et ils ont dit, ça n'a rien à voir avec la mission d'ICANN, il faut les mettre dans les core values. J'ai compris leur point de vue, mais tel que c'est écrit maintenant, on pourrait appliquer les droits de l'homme sur des choses qui dépassent la mission d'ICANN. Et c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc, c'est pour cela que j'ai fait une minority statement en tant que personne. Je pense que maintenant, avec le résultat final, ce que nous avons maintenant, c'est le minimum, disons, c'est vraiment le consensus possible. Parce que les gens campaient sur leur position, ils ne voulaient pas changer, etc. Et donc, c'est tout ce qu'on a pu faire. Bon, je crois que c'est acceptable. Bien que j'aurais aimé que la mission apparaisse dans ce texte-là, de manière à ce que l'application des droits de l'homme ne doive pas dépasser les limites de la mission d'ICANN. Merci.
May.
Merci beaucoup, Tijani. Vanna. Donc, je crois comprendre que aux États-Unis, nous avons des lois qui doivent être suivies et nous avons des traités qui sont signés et nous avons maintenant un compromis. Et pour moi, tout cela est acceptable. Parce que ce n'est pas véritablement... l'Américain ne va pas signer des traités sur les droits de l'homme. Et nous sommes uniquement sujets aux lois des États-Unis. Donc moi, je crois que ça me convient. Oui, merci beaucoup, Vanda. Cheryl, tu as la parole. Oui, merci beaucoup, Cheryl Langdon-Horn. C'est un point important. Ce n'est pas néanmoins... Comme Tijani l'a dit, on n'est pas un critère obligatoire pour la transition IANA. C'est quelque chose d'important dans le second courant de travail, Workstream 2, parce que beaucoup de membres de la communauté ICANN a cela à cœur. Et il faut bien garder cela à l'esprit. Si vous rejetez cette partie de la proposition, je peux vous garantir que cela va causer des problèmes extrêmement négatifs et déstabiliser le processus tout entier. Donc, Tijani a absolument raison. C'est quelque chose qu'il faut gérer une fois, accepter une fois pour pouvoir bien poursuivre. C'est une possibilité intéressante. L'entité ICANN, le conseil d'administration au nom de l'entité ICANN pourrait tout à fait parler de ses valeurs, faire une déclaration de valeurs. Et là, ça deviendrait un point essentiel. Pour le moment, ça n'a pas encore été le cas. Est-ce qu'on doit l'encourager une fois que tous les documents seront prêts? Est-ce qu'on peut le considérer plus tard? Pourquoi pas? Mais ça ne veut pas dire que cet aspect ne doit pas être soutenu maintenant, parce que ça fait partie de tout un ensemble, et que si on retirait cela, on déstabiliserait tout l'ensemble du processus. Merci. Merci beaucoup, Thierry.
Vous plaît. J'ai écouté et entendu avec intérêt la déclaration de Tijani. Comme je lui ai promis à la pause, je vais dire maintenant absolument le contraire de lui, parce que je suis payé par ses adversaires. Un avocat, c'est ça. Bon, soyons sérieux. Pour un juriste, les adresses IP, les adresses numériques, ne sont pas encore quelque chose de passionnant, parce que ce sont des chiffres, ce sont des nombres, et pour le moment, les juristes ne savent pas faire grand-chose avec ça. Bon, cependant, je m'intéresse à l'Internet des objets, et qui sait pour le futur. Mais à partir du moment où on passe des nombres aux dénominations, c'est là que le juriste, brusquement, se réveille. Car les dénominations peuvent faire l'objet de protection ou de propriété. Et donc, nous avons la manifestation possible de différents corps de loi, de corps juridiques. Les droits de l'homme, c'est un cas. Il y en a un autre bien connu, c'est la propriété littéraire et artistique. Il y a, pourquoi pas, aussi les données ou les dénominations nominatives, si elles ne sont pas commerciales et pas propriété industrielle et littéraire. Donc il y a différents types, comme ça, de données ou de dénominations qui font l'objet de protection ou de propriété. Donc le sens de mon intervention, c'est de dire attention de ne pas aller trop loin, c'est ce que tu as dit, Tijani. Si on nous oblige à faire quelque chose, on fait quelque chose, mais pas trop. Parce que si on est d'accord pour un type de dénomination, pourquoi pas une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et puis, où s'arrêtent exactement les droits de l'homme ? À la Déclaration universelle des droits de l'homme ? Ah, peut-être, nous avons un texte. Oui, mais il y a encore dans le monde des États bandits. Et pourquoi un citoyen d'un État bandit n'irait pas devant le tribunal de son pays et de dire « la CAN m'a refusé, c'est contre les droits de l'homme de mon pays ». Où est la frontière, jusqu'où est-ce qu'on peut aller ? Voilà la difficulté, on peut toujours aller trop loin, donc beaucoup, beaucoup de prudence, comme l'a dit Tijani. Faisons attention jusqu'où aller trop loin.
Thank you very much.
Merci beaucoup, Thierry. Nous allons maintenant donner la parole à Ajar. Oui, j'aimerais parler donc en langue arabe. Et j'aimerais donc intervenir. Je voulais prendre la parole parce que les recommandations causent certains problèmes, surtout lorsque l'on parle du monde de l'Internet qui devient de plus en plus large. Eh bien, il y a des doutes à ce sujet, au sujet de cette expansion. L'expansion de l'Internet, de la communauté de l'Internet, cela garantit d'une manière indirecte la responsabilité de l'ICANN, qui rentre en ligne de compte, et également par rapport au statut, il y a le problème du rôle des communautés. Vous avez parlé des objections fortes de la communauté par rapport à certains de ces points. Il y a une force de proposition qui existe. Nous parlons du problème des droits de l'homme. Est-ce que nous pourrions reconnaître ce système avec ses problèmes ? Est-ce que nous pourrions définir ce qui est requis dans l'intérêt de l'ICANN ? Nous devons nous baser sur des principes, agir avec des principes, bien comprendre le rôle de l'ICANN pour atteindre un seuil minimum de stabilité pour l'institution. Néanmoins, il y a des valeurs essentielles, des valeurs de base, les droits de l'homme. Il y a des problèmes juridiques qui se posent, qu'on ne peut pas ignorer, selon moi. Il y a des droits. Il y a une hiérarchie dans ces droits. Il y a des lois qui s'appliquent. Et dans nos statuts, on ne peut pas aller à l'encontre des lois des pays. Les lois locales, les lois des pays ont force, ont vigueur, plus de vigueur. C'est une question juridique qui se pose. Et je suis désolé de parler
peut-être un petit peu trop rapidement, mais c'est tout à fait vrai. Vous vouliez donc trouver une solution médiane, et nous voulions donc accepter, arriver à trouver une solution avec ces droits de l'homme. Mais moi, je crois qu'on risque d'avoir des problèmes avec les lois de chaque pays. Donc, en tant que juriste, j'aimerais dire que dans ce type de décision, nous devons absolument agir en se basant sur des principes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alan Greenberg. Et le personnel, nous avons Yessing du personnel. Nous vous demanderons de parler un petit peu moins rapidement, parce que c'était parfois très difficile à interpréter. Nous vous remercions d'avance. Donc, Alan Greenberg, je crois que nous allons maintenant limiter nos interventions à 2 minutes. Nous devons être plus concis dans nos interventions. Nous avons maintenant la parole qui sera donnée. Je n'ai plus quoi que ce soit à dire. Niels, présentez-vous et dites-nous qui vous êtes, et vous avez 2 minutes. Oui, merci beaucoup, Alan. J'aimerais tout d'abord remercier l'ALAC de me souhaiter la bienvenue. Niels Stenhoover, à la tête du groupe de travail sur la responsabilité sociale et d'entreprise de l'ICANN, qui parle beaucoup, en effet, de droits de l'homme. Et il y a des personnes de mon groupe qui sont autour de cette table, qui travaillent également à la question des droits de l'homme. Donc, merci à toutes et à tous. J'aimerais répondre, même si je n'ai pas entendu les premiers mots de M. Tijani, je suis désolé de cela. Je crois que je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites ici, et il y a beaucoup de juristes autour de nous. Il me semble que d'avoir un cadre de travail sur les droits de l'homme implique des risques. Donc essayons de comprendre sur quoi nous allons avoir un impact et développons un cadre de référence pour nous permettre de nous défendre et de gérer les risques. Soyons tout à fait clairs. Les États ont la responsabilité de protéger les droits de l'homme. Et ce n'est pas du tout le rôle de l'ICANN. Ce ne le sera pas. Et on n'ouvre pas une porte avec ce statut de compromis. Il y a des entreprises qui ont des normes pour respecter les droits de l'homme. Donc moi, je crois qu'il faut commencer, et il y a plusieurs modèles, et nous en avons parlé dans nos communautés. Il y a donc une évaluation de l'impact des droits de l'homme qui doit d'abord être faite. Nous devons avoir une évaluation, une analyse, et voir les modèles que l'on peut utiliser, et que ce soit un modèle mondial, international, principe de base, ligne de conduite, et voyons ensuite, quels sont les cas, au cas par cas, un petit peu. Mais n'ayons pas peur ici. Beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises, ont déjà fait cela. Adidas, Nike, Nestlé, des grandes banques. Et il y a tout un guide, d'ailleurs, pour... on n'est pas des pionniers. Il y a déjà... un champ d'expérience, un secteur qui existe. Et on peut travailler avec la communauté. On n'a pas du tout l'intention de changer la mission de l'ICANN ou de donner plus d'envergure à l'ICANN. Je crois que nous pouvons renforcer l'ICANN dans ce domaine et renforcer l'Internet dans le monde entier pour nos utilisateurs finaux. Et j'espère pouvoir vous aider, travailler avec vous et également... débattre avec vous. Lundi, nous allons en parler. Nous avons une séance à ce sujet sur la responsabilité d'entreprise de l'ICANN par rapport aux droits de l'homme. Beaucoup de présentations, de débats. Et en mercredi, il y aura également une séance de travail. Donc, vous êtes les invités à ces séances. Alan Greenberg, oui. Vous faites des publicités en général, ça coûte cher. elles sont payantes. Je n'ai pas mes lunettes. La jeune femme près de Sébastien. Excusez-moi, je ne peux pas vous bien voir votre nom d'ici. Allez-y, madame.
Entre les juristes qui ont déjà parlé et les techniciens, je donne un avis militant pour dire que par droit de l'homme, je crois qu'on veut parler de l'approche qui consacre l'esprit et la culture du respect des droits de l'homme. C'est-à-dire que, par exemple, cette approche pourrait intervenir dans l'aspect inclusif, l'aspect dans les instances dirigeantes, de l'implication régionale de tout le monde, mais aussi de l'implantation de certaines instances, etc., de prise de décision, pas forcément de loi pure et dure, mais dans cet esprit, comme je l'ai dit, inclusif pour plus d'équité et de justice dans ces instances. Je vous remercie. Merci.
Thank you very much.
Merci beaucoup, Alberto.
Je vais parler en espagnol. Très rapidement, et pour en revenir au même problème, voilà ce que je voulais dire. Les avocats travaillent tout seuls. On avait l'impression que les informaticiens aussi. Je suis heureux d'entendre dire ce que le président a dit, c'est-à-dire nous travaillons dans une équipe multidisciplinaire dans laquelle les techniciens, les avocats vont devoir travailler, les militants fanatiques aussi. C'est seulement comme ça que l'on peut travailler sur ce type de choses. Si l'on ne travaille pas dans une équipe multidisciplinaire dans laquelle chacun accepte, comprend le travail de l'autre, on n'arrivera jamais un bon résultat. Et je crois que c'était bien exprimé ici. Merci beaucoup. Alain prend la parole. Merci beaucoup. Holly, vous avez la parole. Holly Wright, je prends la parole. D'abord, je voudrais dire que nous tenons déjà compte des droits de l'homme dans le domaine du respect de la vie privée. Si on regarde les problèmes de WHOIS aussi, sur lesquels on travaille depuis plusieurs années, c'est une question de publication de données personnelles. C'est un groupe de travail qui s'occupe de cela. Ça va prendre des années de travail dans ce domaine. Cela dit, je soutiens ce qui a été rédigé maintenant, parce que si nous ne comprenons pas ces choses-là, nous ne voulons pas rentrer davantage dans le détail et nous ne connaissons pas et vraiment l'étendue des droits de l'homme. Il peut y avoir certaines choses qui sont laissées de côté. Donc, je crois qu'il y a eu cela couvre un espace très large et ICANN doit comprendre tout cela. Donc, peut-être que cela suffit comme précision. Merci beaucoup. Alan Greenberg prend la parole. Je me remets ici dans la queue pour deux raisons. D'abord, parce que je voudrais répondre aux commentaires de Tidjani, parce que je pense que c'est important que les gens comprennent. Quels sont les pour et les contre? À l'origine, la rédaction était dans le cadre de sa mission. Et on a changé cela, on a parlé des valeurs centrales, des valeurs fondamentales. Je soutiens ce changement parce que il n'y a rien dans les valeurs fondamentales qui peuvent violer la mission. Donc, cela n'étant pas notre mission. Mais cela dit, si l'on dit dans le cadre de sa mission, de la mission, cela va impliquer que les droits de l'homme sont dans le cadre de notre mission. Mais notre mission, c'est les noms et les nombre. Donc, je pense que c'est clair. Je voudrais maintenant dire que les interventions ici montrent qu'on est tous passionnés par cela. Vous avez noté ce que l'on a dit sur l'axe de travail numéro 2, sur le cadre d'interprétation. C'est un travail qui va demander du temps. Si cela vous intéresse, veuillez participer. Essayez de participer pour ne pas critiquer après, une fois que tout est fini. C'est ce que je vous recommande de faire, en tout cas. Nous avons Sean dans la queue et ensuite Siva après Sean. Sean, vous avez la parole. Merci. Sean prend la parole. Je voudrais juste demander une petite précision à Neil. Le groupe de travail intercommunautaire, et c'est celui qui travaille sur le CWC. Ou est-ce que c'est un autre groupe de travail? Est-ce qu'il y a un travail en cours de réalisation? Peut-être que le CCWG devrait confier ce travail à ces gens-là. Et ensuite, cela permettrait au groupe, à l'axe de travail numéro 2, d'avoir peut-être moins de travail. Alain prend la parole. C'est un groupe séparé et qui n'a rien à voir avec le groupe de travail du CCWG. Je pense qu'il participe au travail du CCWG. Et la façon dont nous gérons tout cela va être gérée, va être abordée dans les discussions de l'axe de travail numéro 2. Je pense que ça, on n'a pas besoin d'en parler maintenant. Siva veut prendre la parole. Siva, allez-y. Outre les soucis exprimés concernant le coût légal associé aux ces droits de l'homme et la possibilité d'adhérer à ces droits de l'homme, il y a une préoccupation encore plus importante, les droits de l'homme. Ce n'est pas un thème multipartite, c'est une question régulatoire plutôt. Et c'est au niveau des organisations intergouvernementales ou au niveau des organisations intergouvernementales qui se sont traditionnellement associées au travail et aux règles concernant les droits de l'homme. Plus on entre dans les droits de l'homme, plus on a un espace pour que les organisations gouvernementales interviennent et commentent le travail de l'ICANN et les résultats de l'ICANN. C'est juste une petite réflexion. Je ne sais pas si j'ai raison, hein, si je voulais qu'on réfléchisse un petit peu plus là-dessus. On peut explorer davantage dans ce domaine et on peut réfléchir pour voir si cela pourrait être aussi une préoccupation sur laquelle nous devrions nous pencher. Merci beaucoup, Alain prend la parole. Merci beaucoup, Shiva. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Niels voudrait conclure ici. Et Niels prend la parole. Je ne sais pas si ce sera une conclusion, mais ce que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord ici. Et je pense que si l'on se penche soigneusement sur ce que l'impact des droits de l'homme pourrait être sur ICANN et voir comment aborder ce problème, à ce moment-là, on aura abordé les problèmes de façon à ce qu'il n'y ait pas de raison pour qu'un pays ou une organisation intergouvernementale fasse une plainte concernant les droits de l'homme contre ICANN. Nous pourrions dire nous avons fait notre travail à ce moment-là. Donc je pense que c'est une question de prévention. La prévention, c'est toujours mieux que la réaction. Et dans le domaine des droits de l'homme, dans le domaine des droits privés, et on a souvent, une fois que le problème surgit, on est obligé de trouver une solution. Là, ça serait une façon d'être proactif pour connaître nos risques et nos opportunités et savoir comment y répondre. Merci beaucoup, dit Alain Greenberg. Rappelons-nous que nous parlons d'approuver ici ce statut préliminaire qui a été donc rédigé en tenant compte de beaucoup de compromis, les discussions portant sur ce que nous faisons pendant la prochaine phase ne sont pas les discussions que nous devons avoir ici aujourd'hui. Comme je l'ai dit, je vous encourage à participer lorsque cette phase suivante aura commencé. Mais pour le moment, concentrons-nous sur cette discussion. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir des positions différentes, qui vont vouloir faire pression sur ce qu'ils veulent ou sur ce qu'ils ne veulent pas faire donc accorder. Léon Sanchez prend la parole. Vous avez pratiquement dit ce que j'allais dire. J'encourage tout le monde à continuer à se focaliser sur cette diapo qui est ici devant nous et à ne pas laisser le concept s'éloigner. Ici, nous essayons non pas de réglementer les droits de l'homme dans ICANN. Nous essayons de construire un cadre d'interprétation de façon à ce que dans les missions de l'ICANN, dans les valeurs fondamentales de l'ICANN, on respecte les droits de l'homme. Nous ne sommes pas en train de définir ces droits de l'homme. C'est différent et de la protection des droits de l'homme aussi. Ce que nous faisons ici, c'est dans la mesure où nous comprenons bien cela, nous pouvons soutenir cette recommandation en sachant ce que nous devons faire. Nous devons nous focaliser sur cette recommandation, dit Alan. Sandra, vous avez la parole. Sandra Hofer-Richter prend la parole. Pour répondre à ce que Niels a dit, je voudrais non pas faire une précision, mais me référer à ce que vous avez dit lorsque vous avez dit nous allons définir ce qui pourrait arriver, ce que pourraient être les droits de l'homme au sein de l'ICANN de façon à ce que des organisations intergouvernementales ne viennent pas se mêler de notre travail. Je trouve que c'est une bonne idée, mais je voudrais seulement vous rappeler que il y a 7 ans, avant le début du programme de nouveau GTLD, nous ne nous attendions pas à ce que cela ait un impact au niveau des droits de l'homme. Et nous savons aujourd'hui que ça en a eu un. Donc, il faut savoir que dans le futur, il peut y avoir des programmes qui pourront entraîner une composante additionnelle dans le domaine des droits de l'homme. Dans la façon dont vous l'avez dit, c'est bien l'analyser pour mieux le comprendre. Mais à mon avis, je pense que ça peut être un problème qui ne soit pas complet. Et on peut en rediscuter si vous voulez, mais je pense que ce sera un processus constant, un processus permanent qui sera lié à l'évolution de l'ICANN au fur et à mesure que l'ICANN évolue. Et le problème des droits de l'homme peut évoluer aussi avec. Merci. Alan Greenberg prend la parole. Oui, je vous donne la parole. À la question des droits de l'homme, je pense qu'on a besoin de précision. On parle de droits de l'homme, on parle de l'ICANN et des droits de l'homme. Cela signifie que le rôle de l'ICANN est de protéger les droits de l'homme. Cela ne veut pas dire que l'ICANN doit protéger les droits de l'homme, mais lorsque l'ICANN protège les droits de l'homme, cela ne veut pas dire que ICANN ne va pas mettre en œuvre les lois du pays. Alan a dit quelque chose qui est très important. Et maintenant, l'exemple clé ici que l'on a dans le futur, quelqu'un pourrait se plaindre. On pourrait présenter une plainte concernant les noms de domaine et parce qu'on n'a pas reçu ces noms de domaine, par exemple. Donc, le problème ici, c'est votre relation avec le système légal du pays. Vous ne pouvez pas, en tant que ICANN, empêcher les gens de faire des procès, de porter plainte contre ICANN face à un problème. ICANN ne peut pas mettre en œuvre ses statuts parce que ICANN doit respecter les droits, les lois nationales, les lois d'un pays. Merci beaucoup, dit Alan Greenberg. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Un autre commentaire? Terry, vous avez la parole. Vous n'avez pas l'air de vous. Vous pouvez y aller.
Bien sûr, les propos de. Il a dit que ce problème avait été déjà réglé dans ce groupe de travail. C'est de dire, dans un nom de domaine classique, par exemple en 3 parties, quelles sont les parties qui peuvent poser un problème. Alors www, il n'y a peut-être pas trop de problèmes, sauf si je fais dark web, alors peut-être DKW. Mais c'est peut-être l'ICANN qui sera gêné par les droits de l'homme. Le nom de domaine, la dénomination principale, ce n'est pas vraiment notre problème. C'est géré par tous les registres, les registrars, etc. Et ce sont les États et les tribunaux de ces États qui sont responsables. Et il reste ce que j'appelle le suffixe. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme. dans les GTLD, les CCTLD, etc., ou les noms génériques. Alors c'est là, sans doute, qu'il y a un problème pour la CAN. Car si je vous propose la création d'un nouveau nom de domaine en dot nazi, peut-être que ça va poser vraiment un problème. Dot nazi, c'est un problème. Bon. Mais pour le reste, il y a peu de problèmes à gérer. Mais ça, Tijani l'a dit, mais je crois que le groupe de travail a choisi d'aller plus loin et de s'interroger plus profondément sur les noms de domaine.
Alain Gembert prend la parole. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons d'autres commentaires? Nous avons 12 minutes encore, donc nous allons essayer de passer à la prochaine recommandation. La recommandation numéro 7, c'est la recommandation qui est sur l'écran, qui concerne le processus de révision indépendante de l'ICANN, le IRP, processus par lequel ICANN peut demander à un organe de révision indépendante de voir ce qu'a fait ICANN dans une instance particulière et de considérer si ses statuts ont été violés ou pas. Le processus que nous avons actuellement a été utilisé à plusieurs reprises, récemment dans le .afrique.afrique. Nous avons une nouvelle étape dans ce processus que nous avons vu hier, donc que nous avons constaté son existence hier. Le processus a été analysé par différentes parties, y compris le Conseil, et a été considéré comme déficient. Il y a certains aspects qui ont été considérés comme insuffisants et en général, la nouvelle communauté habilitée au sein d'ICANN. Une partie de cette communauté n'a pas accès à l'IRP, donc la communauté en elle-même ne peut pas dire que ICANN a violé ses statuts. Ce sera donc la révision de cette IRP va résoudre un grand nombre des problèmes que l'on avait avec l'IRP tel qu'il est actuellement. Et cela on va aborder une série de problèmes qui ont été donc considérés par la communauté habilitée. Pour invoquer l'IRP, on a des résultats similaires, c'est-à-dire qu'avec l'IRP actuellement, si on juge que ICANN a violé ses statuts, on ne peut pas recommander la solution. C'est ICANN qui doit revenir et résoudre ce problème. Il y a des craintes selon lesquelles, si on a un organe extérieur qui va aborder ce problème, la communauté va perdre le contrôle sur son fonctionnement, sur sa prise de décision. Mais de nouveau, c'est la même chose. On va se limiter à identifier qu'une violation a eu lieu. Cela a donné lieu à un profond travail, un des domaines au sein de l'IRP et dans lequel il n'y a pas eu beaucoup de controverses. Il y a plusieurs organes, ICANN, la partie légale de ICANN, le conseil, la communauté. Tout le monde a travaillé ensemble pour essayer de trouver un processus qui fonctionne mieux, élaborer un processus qui fonctionne mieux. Alag, dans ses commentaires, a fait quelques petits commentaires concernant les aspects particuliers. Ces aspects ont été résolus pour le moment et nous n'avons jamais vraiment critiqué l'IRP général en lui-même. Nous n'avons pas eu de problème personnellement au niveau d'ALAC. Je n'attends pas beaucoup de discussions sur cette recommandation numéro 7, mais il peut y en avoir, je ne sais pas. Thierry, vous avez la parole.
Alan, si nous avons une IRP sur un problème précis et que le rapport de l'IRP, enfin le rapport, dise il y a une violation des règles de l'ICANN. Alors qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui va se passer? C'est une question que je pose. Je veux dire, l'ICANN n'est pas tenu par le rapport de l'expert. Oui.
Oh. I'll defer to Leon, but my...
Je vais donner la parole à Léon, mais je pense que oui, c'est une ERP contraignante. Le Conseil peut choisir de ne pas la suivre, de ne pas la mettre en œuvre. Et en ce moment-là, on peut mettre en place des actions légales contre le Conseil ou révoquer le Conseil ou lui retirer un de ses pouvoirs. Mais le Conseil, c'est une question contraignante. Le Conseil doit reconnaître cela. À nouveau, je dirais que je ne suis pas un expert dans ce domaine. C'est un des secteurs dans lesquels il y a eu une certaine unanimité entre les différents partis. Mais je dirais que je ne suis pas spécialiste dans ce domaine. Léon est un avocat. Il a peut-être une réponse plus intéressante. Je ne sais pas. Léon prend la parole. Je n'ai rien à ajouter à ce que vous avez dit, Alain. Nous le définissons comme les joyaux de la couronne dans le processus de responsabilité. Et oui, vous avez raison, l'IRP est contraignant pour le conseil de l'ICANN. Le conseil de l'ICANN pourrait choisir de ne pas suivre la décision de l'IRP, mais cela le met dans une situation dans laquelle on peut révoquer le conseil ou dans laquelle on peut faire un procès contre le conseil d'administration de l'ICANN. Donc je pense que cela devrait couvrir les besoins, les nécessités pour une IRP, hein. Alain prend la parole. Je sais qu'il y a eu quelques cas d'IRP dans lesquels on a constaté que ICANN avait violé ses statuts et rapidement le Conseil a mis en place des actions pour remédier au problème et corriger le problème. Donc le résultat, je crois, est cela. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ah, Tijani demande la parole. Tijani, vous avez la parole. Merci beaucoup. Thierry.
L'IRP dont on parle là ne fait que vérifier si ICANN respecte son bylaw ou les articles de l'incorporation. Donc, ce n'est pas, il ne va pas juger du reste, si tu veux, du contenu. Non, il va voir si dans ce que ICANN a fait ou n'a pas fait, est-ce qu'il a violé son bylaw. Et dans tous les cas, quand on viole son bylaw, on est en infraction.
Any further comments?
Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? La recommandation numéro 8. Améliorer la demande, les processus de reconsidération d'ICANN. Ce processus est un processus par lequel le Conseil va refuser une action du Conseil ou du personnel de l'ICANN. Le processus de reconsidération actuel existe depuis le début de l'ICANN. Il y a eu environ 175 demandes de reconsidération. La plupart étaient associées au processus de nouveau GTLD. Et le nombre de demandes de reconsidération qui ont donné lieu à des changements, Cheryl dit 5, je ne sais pas si c'est le cas, 4 ou 5, je dirais. En tout cas, la plupart de ces demandes de reconsidération ont été refusées. Une des raisons pour cela, c'est que les raisons, les motifs pour faire des changements étaient que ICANN ne respectait pas son processus raisonnable. Donc la reconsidération n'a jamais analysé la substance du problème, mais juste si on avait suivi les règles. Je vais vous faire un petit commentaire personnel. Je trouve assez inhabituel qu'une organisation avec autant de gens et de règles aussi complexes, dans seulement 175 cas, a suivi, a appliqué ces règles, a respecté ces règles soigneusement. Ce serait étonnant. Mais en tout cas, ce sont les résultats que nous avons. Il y a en général, au sein de la communauté, une sensation que c'est un processus assez difficile à appliquer parce que les motifs pour la réconciliation sont plus importants quand on ne respecte pas ce processus et que d'autres choses devraient être considérées dans ces cas-là. Ensuite, l'évaluation du processus, l'évaluation des plaintes. Pour l'évaluation des plaintes, on va aller au département légal de l'ICANN pour faire cette évaluation. Ils feront une première évaluation et, en général, ils disent non, tout est correct, on n'a rien fait de mal. Hein. Donc, le nouveau processus élargit la portée de la réconciliation et recommande qu'on soit un peu moins partiel que le département légal et que ce soit ces gens qui sont moins partiels qui fassent cette évaluation. C'est une des choses, à nouveau, je dirais, qui a été et sur laquelle on a tombé en général d'accord, y compris les gens qui ont perdu ces demandes de reconsidération et y compris le conseil de l'ICANN qui est aussi contraint par les règles formelles, mais ce n'est pas toujours applicable, mais le conseil doit respecter ces règles quand même. Donc je crois que c'est une situation gagnant-gagnant et ALAC, et le seul commentaire de ALAC a été, nous avons fait plusieurs commentaires dans le passé sur les problèmes associés à ce processus de reconsidération, et nous sommes contents que ce processus soit un petit peu modifié, parce que cela a donné lieu quand même à de nombreux commentaires au sein d'ALAC. Maintenant, je vous donne la parole. Est-ce qu'il y a des commentaires? Vanda, vous avez la parole. Oui, je voudrais dire que nous devons et reformuler tout ce processus dans son ensemble. J'ai été la présidente du comité de reconsidération. Et à cette époque-là, je suis allée voir John Day, un avocat, parce que j'ai trouvé que certaines choses étaient tout à fait incorrectes. Mais je... À la fin, finalement, tout le monde m'a convaincue. Je ne suis pas moi-même une avocate. Tout le monde m'a convaincue que tout était correct. Hein? Mais finalement, ICANN a perdu devant la justice. Hein? Donc, ce n'était pas correct. J'avais raison. Hein? Ce n'était pas un processus très clair à suivre. Hein? Donc, je pense qu'il faut revoir cela. Oui, tout à fait d'accord. Je suis... Alain prend la parole. Vanda dit qu'elle était présidente du comité de reconsidération lorsqu'elle était au conseil de l'ICANN aussi. Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'était très clair. C'était mal formulé pour être une politique fonctionnelle, mais c'était très clair. C'était extrêmement clair, je dirais même. Mais cela ne permettait pas de résoudre les problèmes qui pouvaient surgir. J'espère que cette nouvelle recommandation pourra résoudre ce type de problème. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Alors, la prochaine recommandation, je pense qu'elle ne devra pas donner de controverse. Nous sommes à l'heure, hein? Donc, je vais demander au personnel de l'ICANN de d'abord prendre la parole pour organiser un petit peu les choses. Merci, c'est Heidi qui prend la parole. Je voulais vous dire que la prochaine réunion aura lieu dans cette salle. C'est le groupe de travail sur At-Large qui va travailler. Vous êtes les bienvenus, donc 17h30, 18h30. Ensuite, il va y avoir un événement de networking. Un cocktail de la société civile de networking. Et ensuite, il va y avoir un dîner qui a lieu au restaurant Pasta Cosi à l'hôtel Palace. Hein. Donc, vous avez les détails de tout cela dans votre email, c'est là qui vous les a envoyés. Cher Lang demande où se trouve le Gianni. C'est dans l'hôtel Palace. Alain Grimerck demande... C'est à l'intérieur de l'hôtel? Est-ce que nous allons nous réunir dans le lobby, dans le hall d'entrée? Quelques minutes avant, je vais demander à Gisela de nous le dire. Pour voir si elle est au courant, elle. Je ne sais pas, dit Heidi. Bien, je remercie nos interprètes pour le bon travail qu'elles font. même lorsque les gens parlent très, 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 très vite. Je remercie l'équipe technique et je remercie les personnes qui n'appartiennent pas à ce groupe normalement pour leur participation, pour leur interaction, pour leur opinion. C'est très, très utile de ne pas entendre seulement les voix des membres de ce groupe et d'entendre les opinions des membres d'autres groupes. Cette réunion est terminée. Nous allons nous réunir à nouveau dans 17 minutes pour le groupe de travail sur la révision d'At-Large. Merci. Bien, comme je l'ai dit, j'apprends encore beaucoup de choses. Merci au personnel. Merci à tous pour vos services. Merci, Hachem. Merci à vous et à Ariel qui ont essayé de suivre mes instructions. J'allais justement dire cela. Merci, Ariel, pour votre aide. Vous n'avez pas le droit de critiquer le président pour votre premier jour de travail. Vous devez attendre demain pour critiquer le président. Merci, merci à tous. Nous nous retrouvons dans la prochaine réunion et demain matin lorsque ALAC se réunit de nouveau pour la réunion d'ALAC avec les leaders régionaux. Et je vais demander à quelqu'un d'envoyer un petit message à Olivier pour lui dire qu'il devrait être dans cette salle maintenant.